Il est 17h30 sur La Première.
La Première.
17h30, 19h.
Le Monde en direct.
Julie Morel et Pascal Claude.
Bonsoir à toutes et à tous et bonsoir Julie.
Bonsoir Pascal, bon début de soirée à toutes et tous.
Des étudiants ont manifesté cet après-midi à Istanbul.
Ils protestent contre l'arrestation ce matin du maire de la ville. Ekrem İmamoğlu est la principale figure de l'opposition en Turquie. Ses soutiens partent d'un coup de force pour entraver la volonté du peuple. La Turquie d'Erdogan est-elle de plus en plus répressive? Nous serons en ligne avec notre correspondante sur place dans 15 minutes dans le carrefour.
Le feu est clairement au rouge pour le climat. L'Organisation météorologique mondiale indique que 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée et la limite des 1,5 degré fixée par l'accord de Paris a été dépassée pour la première fois. Mais alors, question, pourquoi est-ce que le climat semble être le grand absent des priorités politiques, voire citoyennes? Nous prenons 5 minutes pour comprendre dans un instant avec notre premier invité.
Feu rouge pour le climat, mais en revanche, feu vert pour les radars fixes. Il y en a 150 de plus qui seront installés cette année sur les routes wallonnes. L'enjeu est de renforcer la sécurité routière. Que dites-vous de cette mesure? Faut-il plus de radars sur nos routes, plus de radars tronçons notamment? Venez participer au débat d'Allô le Monde.
Et si vous êtes au volant, n'oubliez pas de passer par votre kit main libre pour former le 070 66 55 44. Vos notes vocales et vos messages via WhatsApp, c'est au 0471 200 500. Comment renforcer la sécurité routière? Le débat, c'est avec vous et nos invités à 18h20.
Et alors que l'actualité est dense et souvent sombre, pourquoi est-il néanmoins urgent d'étudier nos subjectivités? Le neurologue Lionel Nakache en fait une priorité absolue. Il nous expliquera pourquoi. Il nous dira aussi quelle est l'attitude de nos cerveaux et l'attitude qu'ils doivent adopter face à l'intelligence artificielle et à ChatGPT. Lionel Nakache sera notre invité à 18h45.
Voilà, vous avez le menu. Alors soyez les bienvenus. C'est une info qui malheureusement ne vous surprendra pas. 2024 a battu tous les records en matière de température.
C'est non seulement l'année la plus chaude jamais enregistrée, mais c'est aussi, selon l'Organisation météorologique mondiale qui vient de publier son rapport, la première année où la température moyenne mondiale dépasse de plus d'un degré et demi les valeurs pré-industrielles. La concentration atmosphérique en dioxyde de carbone n'a jamais été aussi élevée en 800 000 ans. Et le niveau de la mer augmente plus rapidement que les scientifiques ne l'avaient prévu, c'est-à-dire en 2024, plus d'un demi-centimètre.
Les scientifiques rappellent à qui veut l'entendre qu'il y a urgence à agir, mais pour le moment, on a un peu l'impression qu'ils crient dans le désert. Les priorités sont ailleurs. Bonsoir Sandrine Dixon de Clèves.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente honoraire du Club de Rome et experte pour les Nations Unies. Vous siégez dans les commissions de gouvernance climatique et de réforme de la COP. Les rapports, comme celui de l'Organisation météorologique mondiale, se suivent et se ressemblent. Est-ce que les dirigeants politiques les lisent encore ?
Est-ce que les dirigeants les lisent encore ? Je crois que oui, ils doivent les lire, mais la question, est-ce qu'ils les portent une importance telle que nécessaire ? C'est ça le plus gros problème, en fait. Pour l'instant, ils sont concentrés sur la défense, sur la concurrence et sur le trumpisme.
Mmh. Ce n'est plus une priorité politique, vraisemblablement. Et vous, votre message, Sandrine Dixon de Clèves, c'est que le réchauffement climatique, en fait, il a un impact énorme sur la sécurité, qui, elle, est une priorité politique.
Absolument. Et quand on regarde les budgets maintenant qu'on met concernant la défense, il faut prendre en compte en fait une sécurité à long terme. Et cette sécurité à long terme prend en considération le changement climatique, mais aussi en court terme. Quand on regarde en fait le besoin d'adapter à l'impact de la migration, le besoin d'adapter à l'impact qu'on a de plus en plus concernant tous ces impacts climatiques qu'on voit en particulier dans le sud avec la désertification, l'impact qu'on va avoir concernant en fait notre alimentation, l'impact qu'on va avoir au niveau de notre accès à l'eau. Donc tous ces différents impacts sont des impacts de sécurité et de stabilité économique.
Selon le rapport de l'Organisation météorologique mondiale, les phénomènes extrêmes, les cyclones, les inondations, les sécheresses qu'on a connues en 2024 ont entraîné le plus grand nombre de nouveaux déplacements jamais enregistrés en 16 ans. Ils ont en effet contribué aussi à aggraver toute une série de crises, vous venez de le mentionner, à cause des pertes économiques massives aussi que provoque le réchauffement climatique. Les déplacements de personnes, c'est aussi un effet qui sera très déstabilisant.
Oui, quand on parle souvent des déplacements de personnes, on parle de la migration venant de l'Afrique ou venant de différents pays du Sud. Mais il faut comprendre qu'en fait, on va avoir un déplacement au sein de l'Europe. On aura un déplacement venant de certains pays du Sud vers les pays du Nord. Ça se passe déjà. Et on verra aussi certains secteurs qui vont quitter en fait les pays du Sud. Encore une fois, les fermiers qui sont impactés directement au niveau des pays du Sud. Et puis aussi les fermiers qui sont impactés concernant les plus d'inondations, la pluie, les niveaux d'humidité qu'on voit de plus en plus, qui ont un impact direct aussi au niveau de l'alimentation, au niveau des pays du Nord. Donc cela va avoir un impact sur nous tous. Et ça, il faut absolument qu'on prenne en compte. Mais j'aimerais aussi donner une autre statistique, c'est qu'il faut comprendre qu'à 1,5 degré, donc on est maintenant à une moyenne d'1,5 degré, on sait, parce que cela a été maintenant évalué par des économistes et par des scientifiques, qu'on va perdre plus ou moins 3% de PNB global. Qu'une fois qu'on va vers 3 degrés, on va payer en fait une perte de PNB de 10 à 12%. Donc, il y a un impact direct au niveau de nos économies. Et c'est très important qu'on prenne ça en compte.
Vous évoquiez il y a un instant le Trumpisme qui est en effet une priorité aujourd'hui pour nos gouvernements. Comment réagir face à la nouvelle administration américaine? Trump, en effet, il a quand même donné un signal très fort en matière de climat en se retirant immédiatement de l'accord de Paris. Est-ce que ça, au-delà des États-Unis, ça a un impact mondial sur le réchauffement, cette décision politique-là?
Très difficile de savoir pour l'instant, mais ce qu'on sait, c'est que par exemple, quand Trump était au pouvoir déjà la première fois, quand il est sorti de l'accord de Paris, ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas eu le même impact qu'on aurait cru. La raison, c'est qu'en fait, les États et aussi les villes ont décidé de continuer avec leurs objectifs de décarbonation. Et donc, on n'est pas encore sûr. Maintenant, où ça a un impact, c'est vrai, c'est que certains pays qui, de toute façon, n'étaient pas nécessairement prêts à continuer au niveau des objectifs du pacte et de l'accord de Paris, que ces pays-là vont peut-être suivre maintenant Trump. Mais moi, je ne suis pas sûre ou convaincue qu'il y aura un vrai impact, en tout cas au niveau de certains des États. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup des États républicains qui ont reçu les plus gros fonds au niveau de ce qu'on appelle le IRA, donc en fait l'acte qui a vraiment commencé à donner en fait des fonds pour les renouvelables aux États-Unis. On voit que ces fonds sont partis dans des villes et aussi dans des États républicains, pas que démocrates.
D'autres niveaux de pouvoir pourraient compenser. Cela dit, c'est quand même un message qu'il envoie au monde de l'entreprise, au secteur industriel aussi, qui s'était quand même engagé dans une décarbonation et qui pourrait ralentir aujourd'hui, non ?
Au niveau des industriels, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et ce qu'on voit maintenant, c'est même le rapport de risque qui est sorti en fait du Forum économique mondial, qui démontre que les PDG en fait et les industriels qui l'année dernière ont dit que un des plus gros risques était le changement climatique ont postposé maintenant ce risque à 10 ans. Donc cette postposition, je dirais, du risque climatique est réelle. On voit qu'il y a pas mal d'industries qui sont en train de sortir de leurs objectifs zéro au niveau de la décarbonation et aussi au niveau de leurs émissions. Et ça, c'est très problématique. On l'a vu au niveau des pétroliers, ils sont tous maintenant retirés de leurs objectifs. On le voit au niveau des plus gros, je dirais, entreprises qui ont le plus gros impact au niveau des émissions de CO2. Et ça devient très problématique. C'est pour ça qu'il faut, au niveau européen, continuer à travailler avec les industries européennes pour mettre sur pied en fait des solutions technologiques, mais qui aident et la compétitivité, parce qu'on voit que la Chine continue à décarboniser, la Chine continue à investir dans l'électrification, la Chine continue à investir dans les renouvelables. Et donc, on a un marché possible qu'on doit continuer en Europe, on ne doit pas perdre cette marge qu'on avait avant au niveau de ce marché.
Merci, merci beaucoup Sandrine Dixon-Declèves d'avoir été notre invitée ce soir sur La Première. 17h et tout juste 46 minutes. La suite, c'est le Carrefour du Monde en direct et avec nous ce soir Anne Andlauer, Olivier Henrion et Imad Messoudi. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Imad, vous avez passé la journée à la Chambre.
Oui, tous les ministres passent leur grand oral et certaines méritent déjà une cote d'exclusion.
Olivier, vous nous venez, vous, avec un petit livre blanc.
Oui, alors, livre blanc, spoiler alerte, c'est pas un livre pour passer son stress et faire du coloriage, mais pour se donner du courage et reprendre en main son destin.
J'aurais préféré la version coloriage, personnellement. Anne, vous êtes notre correspondante en Turquie et vous allez analyser pour nous les raisons de l'arrestation ce matin du maire d'Istanbul.
Oui, selon l'opposition, c'est une opération politique contre le principal rival du président Erdogan.
Le Carrefour, c'est dans 3 minutes. Bonsoir David Bertrand.
Bonsoir tout le monde.
Une humeur avec vous consacrée à la course la plus difficile au monde.
Elle s'appelle la Barclay. Elle se dispute en ce moment aux États-Unis dans un parc national du Tennessee. Et cette année encore, c'est la course qui a gagné.
Et donc on va mouiller notre maillot avec vous. Ce sera tout à l'heure, juste avant 18h. Et là, c'est les routes. Et c'est Guillaume Kermans que nous saluons. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir.
Où est-ce qu'il y a des soucis ce soir, dites-nous.
Plusieurs petites choses à dire. Tout d'abord sur l'autoroute 411, deux animaux sur les voies de circulation au niveau de la sortie pour Champion, direction le Luxembourg. Soyez prudents si vous avez percevé ces animaux. Ils pourraient gêner votre passage. Et puis il y a un gros bouchon qui s'est formé sur l'autoroute E19, un accident à Zems qui neutralise deux voies de circulation. Donc une seule voie pour faire passer tout le trafic avec des fils qui remontent depuis le ring de Bruxelles, depuis l'échangeur de Diegem et même au-delà, depuis Zaventem, vous êtes ralenti plus ou moins 30 minutes perdues sur le ring. Et si vous êtes déjà sur l'autoroute E19 dans les fils, une heure.
Il est des fiertés que l'on aime partager. Thomas Piron a été élu marque de l'année 2025. Merci à nos clients, partenaires et équipes qui nous ont ouvert la route.
La météo, Caroline Dessogne, demain c'est le printemps.
Oui, demain jeudi 20 mars aura lieu donc l'équinoxe de printemps à précisément 10h01. Et après une nuit calme et sans gelée, nous aurons des conditions printanières pour ce jeudi, avec en matinée tout de même des voiles de cirrus qui vont traîner sur la Flandre. Et puis rapidement tout cela va se dissiper. Dans l'après-midi, toutes les régions vont profiter d'un ciel bleu azur, d'un soleil généreux avec des températures qui vont encore grimper par rapport à aujourd'hui. On attend par exemple 15 degrés à Botrange ou encore à Saint-Hubert, 16 à Spa ainsi qu'à Ostend, 18 degrés à Bruxelles, à Anvers, à Tournai, à Mons, à Charleroi et jusqu'à 19 degrés à Namur ainsi qu'à Hasselt. Vendredi, nous connaîtrons un pic de douceur avec des températures qui vont dépasser la barre des 20 degrés, digne d'une fin mai. Et puis progressivement, après une matinée lumineuse, le ciel deviendra plus voilé à partir de la frontière française, mais sans précipitation.
Plumard, un confort haut de gamme.
C'est un Plumard.
La Première.
Le Monde en direct.
Jusqu'au 31 mars, ne ratez pas nos conditions salon avec Mobalpa. Imaginez des espaces conçus spécialement pour vous. Chaque produit Mobalpa est le fruit d'un savoir-faire reconnu, une qualité supérieure qui dure dans le temps. Et chez Mobalpa, le sur-mesure n'est pas un luxe, c'est notre standard. Rendez-vous dans le magasin Mobalpa le plus proche de chez vous, où notre équipe dédiée vous accompagnera de la conception à l'installation de votre projet. Mobalpa, unique comme vous.
Qui dit œuf de Pâques, dit
Léonidas.
22 goûts uniques tels que Manon, praliné pétillant, violette, pistache, spéculoos. Vous pouvez choisir les goûts et les couleurs selon vos envies.
Oh, je les veux tous.
Des petits œufs de qualité supérieure à un prix imbattable, c'est uniquement chez Léonidas. Léonidas, la boîte à bonheur.
La Première et le Botanique présentent bientôt en concert Ljubljana, Charles et Miel de Montagne. Info botanique.be avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, La Libre et Moustique.
Le Monde en direct.
17h44, l'actualité géolocalisée comme chaque soir. Voici le carrefour du Monde en direct.
Depuis Ankara, nous tenterons de comprendre pourquoi ce matin, la police turque a arrêté le maire d'Istanbul.
Ensuite à Bruxelles, la Commission européenne a présenté ce mercredi son livre blanc sur la défense européenne.
Et puis à la Chambre, c'est la période des grands oraux pour les nouveaux ministres. Quelles sont les limites de l'exercice? On vous explique.
C'est un séisme politique en Turquie. Ce matin, à l'aube, la police a arrêté à son domicile le maire d'Istanbul.
Ekrem İmamoğlu a été élu il y a 6 ans à la tête de la mégapole. Cet homme politique très populaire a été placé en garde à vue, ainsi qu'une centaine de personnes, parmi lesquelles d'autres maires du Parti républicain du peuple, dont Ekrem İmamoğlu est membre. Il est accusé à la fois de lien avec le terrorisme et de malversation financière dans sa gestion municipale.
Anan Loer, vous êtes avec nous en ligne d'Ankara. Première question, s'agit-il clairement, Anne, pour le président Erdogan, d'écarter un rival, peut-être son plus grand rival, dans la course à la présidentielle?
En tout cas, le calendrier le laisse penser, puisque c'est après avoir déclaré sa candidature à l'élection présidentielle, plus de 3 ans avant la date officielle du scrutin, qu'Ekrem İmamoğlu semble être devenu une cible prioritaire pour le président Erdogan. Ces derniers mois, les enquêtes, les procès s'accumulaient contre le maire. Hier, l'université d'Istanbul avait même annulé son diplôme obtenu il y a 30 ans, un diplôme qui est obligatoire ici pour prétendre accéder à la tête de l'État. Avec son arrestation ce matin, l'objectif est clairement d'écarter le principal rival de Tayyip Erdogan, celui qu'il devance dans presque tous les sondages de popularité. Et pour les partisans du CHP, comme Ayten, que j'ai rencontré au siège du parti, c'est un signe de la peur qu'Ekrem İmamoğlu inspire au président turc.
Le pouvoir a peur parce qu'il voit à quel point Ekrem İmamoğlu est un rival sérieux. Malheureusement, nous avons un président qui veut rester au pouvoir à vie.
Alors, autre indice que le moment n'a pas été choisi au hasard, Ekrem İmamoğlu devait être officiellement investi ce dimanche comme le candidat de son parti à la prochaine présidentielle.
Oui, et aujourd'hui, le parti du maire assure que cette primaire sera maintenue et qu'Ekrem İmamoğlu reste son seul candidat. Remzi Yavuz, comme tous les membres du CHP croisés au siège aujourd'hui, jure que le président Erdogan n'arrivera pas à ses fins.
Plus il s'en prend à lui, plus İmamoğlu se renforce. S'il l'empêche de se présenter, nous élirons n'importe quel candidat que présentera CHP.
Anne, et est-ce que İmamoğlu pourrait être incarcéré à l'issue de sa garde à vue?
C'est tout à fait possible, et ce n'est pas tout d'ailleurs. Comme l'une des enquêtes qui le vise concerne des liens présumés avec le terrorisme, en l'occurrence avec le PKK, le Parti des Travailleurs du Kurdistan, les autorités pourraient aussi destituer le maire et nommer à sa place un administrateur, donc la mairie de la plus grande ville turque, qu'Ekrem İmamoğlu et l'opposition avaient conquise en 2019, pourraient retourner dans l'escarcelle du pouvoir. Ces événements sont d'ailleurs l'illustration d'une rancune tenace. Tayyip Erdogan n'a visiblement jamais digéré la perte d'Istanbul.
Est-ce que cette arrestation officialise en quelque sorte, Anne, l'entrée de la Turquie dans une nouvelle ère politique encore plus répressive?
Alors cette répression qui s'accélère est sans doute le signe que le président Erdogan est en train effectivement de construire un nouveau socle politique dans le but de consolider son pouvoir et de le perpétuer en dépit des revers électoraux des dernières années. Et il s'y emploie comment? Eh bien en divisant l'opposition. D'un côté, il fait une ouverture envers les Kurdes, on l'a bien vu ces derniers mois avec les négociations de paix avec le PKK et l'appel de son chef emprisonné Abdullah Öcalan à renoncer aux armes. Et puis de l'autre, il met sous pression les autres acteurs de l'opposition, en particulier le CHP. Et parce qu'il le met sous pression, il l'empêche de soutenir franchement les efforts de paix, ce qui peut avoir pour effet de créer une rupture entre les Kurdes et le reste de l'opposition. Or, c'est seulement si l'opposition dans son ensemble est unie qu'elle peut espérer battre un jour Tayyip Erdogan dans les urnes.
Anne Loer depuis Ankara ce soir en direct. Merci à vous. 17h48, il faut réarmer l'Europe.
Depuis quelques semaines, cette petite phrase revient comme un leitmotiv dans la bouche des dirigeants européens. Le constat est implacable. Ces 40 dernières années, les dépenses militaires ont décliné partout en Europe, à l'abri sous le parapluie militaire américain. Les Européens ont été bercés par l'illusion que la guerre en Europe était cantonnée au livre d'histoire.
Ah oui, mais l'invasion de l'Ukraine par la Russie leur a démontré le contraire. La prise de distance des États-Unis avec leurs alliés occidentaux a fini de convaincre les derniers sceptiques, Olivier.
Oui, l'Union européenne doit dépenser plus, mieux et européen, c'est le refrain du moment. Une petite musique qui commence déjà à infuser. En 2024, les Européens ont investi près de 326 milliards d'euros dans leur défense, un record. Mais ces dépenses se font encore en ordre dispersé. Alors pour optimiser ces investissements, la Commission européenne a présenté ce mercredi son livre blanc sur l'avenir de la défense européenne. Un livre blanc, alors c'est généralement l'outil que la Commission dégaine quand elle se trouve face à un sujet politiquement sensible ou relativement nouveau. Avec la défense, on est en plein dedans. Et donc, en une vingtaine de pages, ce nouveau livre blanc présente les objectifs d'une défense européenne et les moyens pour les mettre en place.
C'est pas une proposition de loi, mais c'est plutôt un catalogue de propositions, si je comprends bien, qui va nourrir le débat au Parlement et au Conseil européen.
C'est ça. Avec une règle d'or, les Européens doivent rapidement combler leurs lacunes en matière de capacité militaire, mais ils doivent le faire à l'européenne, c'est-à-dire développer une véritable coopération dans des domaines particulièrement critiques. La défense aérienne et antimissile, les systèmes d'artillerie, les missiles et les munitions. Bref, en tout, il y a 7 domaines qui ont été identifiés pour développer des projets en commun. Cela permettra de faire baisser les coûts et surtout d'harmoniser le matériel militaire des armées pour les faire travailler ensemble.
Acheter en commun, mais aussi acheter de préférence européen, Olivier.
C'est-à-dire faire en sorte que ces projets de coopération et ces financements européens renforcent l'industrie européenne de défense. Ce serait ballot, après tout, d'investir des milliards dans la défense pour que cet argent profite avant tout à l'industrie américaine. C'est une revendication qui a d'ailleurs été longtemps portée par le président français Emmanuel Macron et à laquelle plusieurs États membres ont fini par se rallier. Même si Berlin ou Varsovie estiment encore que faire son marché aux États-Unis ou en Corée du Sud doit toujours pouvoir être envisageable, le sujet reste particulièrement sensible.
Et on va payer tout ça comment ?
Alors la reconstruction de la défense européenne exigera des investissements massifs, tant publics que privés, sur une période prolongée, a rappelé cette semaine Ursula von der Leyen. Le livre blanc visera aussi à définir les pistes de financement pour développer ces projets. On y trouve le plan à 800 milliards d'euros d'investissement, dont on a déjà parlé ici, que la Commission a présenté au début du mois, mais aussi la clause de sauvegarde nationale du pacte de croissance et de stabilité qui va permettre aux États membres qu'ils souhaitent de retirer les dépenses de défense dans le calcul de leur déficit public. Alors, ça ne fait pas faire des cumulés de joie à tous les États membres. Les plus endettés auraient souhaité voir la proposition d'emprunt commun pour financer les projets de défense dans ce livre blanc. Elle n'y est pas. On sait que les États membres sont encore divisés sur la question. Mais comme nous le confiait un diplomate européen, l'essentiel, c'est que ce livre blanc existe. N'oublions pas d'où on vient. Rien n'empêche désormais les dirigeants des États membres de compléter ce catalogue. Ils commenceront d'ailleurs demain lors d'un sommet européen.
Le rendez-vous est pris. Merci Olivier Henrion. Et au Parlement fédéral, il a aussi été question d'armement. Aujourd'hui, Theo Franken, le ministre de la Défense, a présenté son grand oral, son exposé d'orientation politique. C'est un passage obligé pour tous les ministres lors de la formation d'un nouveau gouvernement.
Et comme tous les ministres, Theo Franken n'a pas été en mesure de détailler les sources de financement des projets qu'il a pour son département. Le ministre de la Défense n'est pas le seul dans le cas. Plus globalement, en fait, Imad, ces grands euros, on a l'impression qu'ils ne se passent pas très bien.
Pas vraiment, non. Un petit mot d'abord sur cet exercice particulier. La note d'orientation politique, c'est en fait une feuille de route, ce que la ministre va faire pendant la législature. C'est censé être plus détaillé que l'accord de gouvernement. C'est un pas supplémentaire. On est censé entendre des choses concrètes, un calendrier et un budget. Et ce n'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Pour l'asile et la migration, par exemple, c'était hier, la ministre NVA Anne-Lene van Bozoyt a fait un exposé d'une toute petite quinzaine de minutes qui était un résumé du chapitre asile et migration de l'accord de gouvernement. Rien de plus. Ce mercredi, Rob Benders, Voreut, c'est le nouveau ministre à l'égalité des chances, il a présenté sa note. L'écolo Sarah Schlitz, qui était ancienne titulaire du poste, nous résume l'exposé.
Alors c'est très très mauvais. Autant handicap hier, ça allait encore. Ici, on a affaire à une note qui fait même pas 5 pages de présentation et avec des choses qui sont moins précises que l'accord de majorité. Donc c'est complètement incroyable quoi. Tout relève de on va continuer à faire ceci, on va poursuivre cela. Donc en fait, continuer à laisser vivre des projets que j'ai lancés par le passé, bon bah merci. Mais par contre, lui ne contribue pas du tout à la lutte contre les inégalités, donc en apportant sa pierre à l'édifice.
La critique est à peine moins sévère au PS concernant l'exposé ce mercredi de Bernard Quintin, le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, MR. Écoutez Ridwan Chahid pour le PS, qui a un début d'explication sur ses exposés un peu trop faibles.
On se pose la question de c'est quoi l'utilité, puisque, comme vous le savez, nous avons écrit au président de la Chambre en demandant que cet exercice soit accompagné d'une note budgétaire, d'une perspective budgétaire, comme le prévoit le règlement. Et donc ici, le règlement de la Chambre n'est clairement pas respecté. Il faut croire que le gouvernement, que le ou les ministres, puisque ça se passe dans l'ensemble des commissions, n'ont pas aujourd'hui trouvé un accord en interne au sein du gouvernement sur les aspects budgétaires.
Alors le flux sur le budget s'explique à cause des fameuses dépenses militaires supplémentaires imprévues ou encore le désaccord sur la taxe sur les plus-values. Le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, le MR Bernard Cazeneuve, lui, ne pense pas que cet exercice est inutile.
J'entends en tout cas qu'il y a un regret qu'il n'y ait pas de cadre budgétaire. Cela dit, je ne suis pas de ceux qui pensent que l'exercice est inutile parce que ça me permet à moi, justement, dans le dialogue avec le Parlement, d'affiner un certain nombre de choses. On a toujours à apprendre. J'ai un certain nombre de choses à dire, mais j'ai surtout un certain nombre de choses à écouter de la part des parlementaires, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition d'ailleurs. Ça me permettra d'avoir une note de politique générale donc sur l'année qui sera bien affinée avec un cadre budgétaire.
On reconnaît bien là la parole du diplomate qui pointe un élément important. Hein. Un autre grand oral est programmé, ce qu'on appelle alors la note de politique générale, hein, c'est pas l'orientation, et qui, elle, cette note, eh bien, elle balise l'année à venir et les politiques qui seront mises en place dans cette année, avec là un budget. En attendant, ce qui se passe actuellement, c'est insuffisant, voire pire. Écoutez Alexia Bertrand, députée Open VLD dans l'opposition.
On a l'impression qu'en fait, c'est un peu de la thérapie occupationnelle ce qu'on fait, puisque les notes d'orientation politique sont déjà dépassées, que le débat réel ne peut pas avoir lieu, qu'il a lieu davantage dans la presse qu'au Parlement, et que c'est vrai qu'en termes de respect du Parlement, c'est pas optimal, d'autant plus que cette même majorité était la première à exiger la législature passée d'avoir des tableaux budgétaires, d'avoir des chiffres, d'avoir des calendriers très clairs.
Voilà, la suite, c'est au mois d'avril, si le gouvernement de Weaver arrive à avoir un budget d'ici là.
Et c'était le carrefour du monde en direct de ce mercredi. 17h et presque 56 minutes, place à l'humeur sportive de David Bertrand.
Une humeur qui nous emmène aujourd'hui dans un parc national du Tennessee, aux États-Unis donc. Le Frozen Head State Park, une forêt inhospitalière où se déroule en ce moment la course à pied considérée comme la plus difficile au monde. Elle s'appelle la Barkley. David, vous avez couvert cette course il y a quelques années pour la RTBF, c'est mieux. Cette épreuve, en fait, elle a vraiment pas d'équivalent.
Ben non, parce que là-bas, tout est différent. Le prix d'inscription de l'Ultra Trail du Mont-Blanc, l'UTMB, l'une des courses les plus emblématiques du circuit, 439 euros. Prix d'inscription à la Barkley, 1,60 $, inchangé depuis sa création il y a 39 ans. Pour avoir le droit de courir à l'UTMB, justement, il faut obligatoirement terminer des courses qualificatives labellisées aux quatre coins du monde, cocher des cases pour espérer être au départ. À la Barkley, une lettre de motivation à envoyer à une adresse mail secrète un jour précis de l'année et une réponse écrite par l'organisateur en personne, séduit ou pas par votre candidature. Nombre de participants à la Diagonale des Fous, l'une des épreuves les plus exigeantes au monde, 2700. Nombre de partants à la Barkley, 40 par édition, pas un de plus. Balisage sur la plupart des grandes courses d'ultra-trail, fanion tous les 50 mètres, signaleur aux intersections, balise GPS et application sur téléphone pour suivre en live la progression des coureurs mètre par mètre. À la Barkley, pas de montre connectée, aucun balisage. Tout ce qui est autorisé, c'est une carte, une boussole et une montre qui ne remplit que sa fonction première, donner l'heure. Pas de site internet, juste un compte X sur internet donc qui distille parcimonieusement quelques infos énigmatiques. L'UTMB et la Diagonale, ce sont ce qu'on appelle des 100 miles, des courses de 168 km si on fait le compte, parfois un tout petit peu plus. Les vainqueurs s'imposent en 20 heures sur l'UTMB, 24 heures à la Diagonale. La Barkley, c'est théoriquement aussi un 100 miles, les plus rapides l'ont bouclé en 55 heures, le temps limite 60 heures. Et pourtant, cette épreuve, elle fait fantasmer tous les coureurs à pied parce qu'elle a une histoire, elle a une âme, parce que ceux qui y vont sont habités par l'épreuve, en deviennent même obsédés. Certains mettent des années à être sélectionnés, mais surtout, la très grande majorité échoue. 38 Barkley disputés, 40 coureurs par édition, 1520 au départ, donc depuis 1986, 20 finishers au total, 19 hommes et une seule femme, un taux de réussite de 1,32%. La Barkley, c'est l'essence même du sport. Pas de distinction entre les élites et les amateurs. Le sport pour la beauté de l'effort. L'aventure, au sens noble du terme, un face-à-face avec soi-même. La Barclay, c'est le dépouillement physique, la privation de sommeil, le corps humain poussé dans ses limites. La Barclay, c'est une course impitoyable qui ne se gagne pas, elle se dompte, elle se décrypte. C'est une énigme à multiples variables, une équation à plusieurs inconnus qu'il faut tenter de résoudre. La Barclay, je le disais, ne se gagne pas. Elle ne désigne d'ailleurs jamais de vainqueur, juste des finishers. D'ailleurs, nombre d'entre eux ont une particularité commune. Ce sont pour la plupart des ingénieurs. Et cette année, il n'y en aura pas parce qu'aucun des coureurs n'est parvenu à boucler les deux premiers tours en moins de 24 heures. Cette année encore, c'est la Barclay qui a gagné.
C'était
c'est impressionnant cette affaire. Hein.
Bertrand, vous avez déjà eu cette adresse mail secrète de...
Oui, je l'ai, je peux vous la transmettre contre un peu de corruption.
Non, parce que j'ai vu qu'Imad, ça l'intéresse. On allait peut-être organiser...
Donc personne n'a fini cette année.
Alors, personne ne finira les 5 tours parce qu'ils n'ont pas réussi à faire les 2 premiers tours dans les 24 heures. Il y a encore une possibilité pour certains de faire ce qu'on appelle la fun run, c'est-à-dire de faire 3 tours en moins de 40 heures. Il y a un Belge qui participe cette année-ci, mais actuellement, au moment où je vous parle, il y a plusieurs participants qui étaient engagés sur la première boucle qu'on n'a toujours pas retrouvé, qui sont perdus dans la forêt et dont on ne sait pas quand ils vont revenir au camp.
Mais est-ce que ce n'est pas une forme d'élitisme en soi quand même? Parce que vous dites que c'est l'essence du
mais
sport,
c'est pas cher.
Etc.
Et
si vous avez une chouette plume et que vous faites une chouette lettre de candidature, Julie, vous pouvez être au départ l'année prochaine.
Ah oui, moins de 2 dollars.
On peut la faire ensemble. Hein,
comme ouais. Sponsoriser.
Ouais. On va se relayer à 3 peut-être, ou à 4. Comme ça, on aura peut-être un tout petit peu de chance de gagner. Merci beaucoup, David. Et à très vite sur La Première. Merci d'avoir choisi La Première, Le Monde en direct, à suivre et à vivre jusqu'à 19h. Il est 18h et c'est le journal avec Sophie Léonard. Bonsoir Sophie.
Ah, bonsoir.
Et à la une ce soir, la Cour d'appel de Bruxelles qui estime que l'Office des étrangers a abusé de son droit.
L'Office des étrangers a convoqué un demandeur d'asile afghan à un rendez-vous sans préciser exactement pourquoi. Il vient de toute bonne foi et se fait arrêter pour être expulsé. Récit dans un instant. Comment débloquer 4 milliards d'euros pour la défense belge avant l'été? Réponse, on ne sait pas. Mais il y a désormais unanimité au sein du gouvernement Arizona pour porter nos dépenses à 2% du PIB. Et il faudra compenser, dit le Premier ministre Bart De Wever. Ces valises n'auraient jamais dû franchir les contrôles et pourtant des agents de sécurité les ont laissées passer. Les aéroports de Charleroi et de Bruxelles sont loin d'avoir réussi les tests de sécurité. Oui, on parle bien de tests. Alors que les bombes s'abattent de nouveau dans la bande de Gaza, plusieurs milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Jérusalem pour dénoncer les dérives antidémocratiques du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Il l'accuse de poursuivre la guerre contre le Hamas sans considération pour les otages encore détenus à Gaza. Et puis cette rencontre surprise hier à Doha. Les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame se sont retrouvés pour évoquer un cessez-le-feu en République démocratique du Congo.
Et vos prochains rendez-vous sur La Première, le débat d'Allô Le Monde ce soir autour de cette question. Faut-il plus de radars fixes en particulier sur les routes wallonnes pour garantir la sécurité routière? Vos appels maintenant 070 66 55 44.
Et puis cette question également avec notre invité. Pourquoi faut-il faire de nos subjectivités une priorité? Notre invité, c'est le neurologue Lionel Nakache. On l'écoutera à 18h45.
L'Office des étrangers a abusé de son droit, c'est ce que dit un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles.
L'Office des étrangers a convoqué un demandeur d'asile dans le cadre du traitement de son dossier. Le demandeur ne remplissait pas les conditions pour séjourner en Belgique et l'Office a donc profité de sa présence dans les bureaux pour le détenir en centre fermé. Dans son arrêt, Baptiste Tupin, la Cour d'appel se demande si cette pratique n'est pas déloyale.
Tout commence par une simple convocation. L'Office des étrangers fixe un rendez-vous avec un demandeur d'asile afghan pour lui communiquer une décision dans son dossier. À ce stade de la procédure, l'Office vérifie s'il est bien compétent pour traiter la demande. Si le demandeur d'asile est déjà passé par un autre pays européen, la demande devra être traitée ailleurs qu'en Belgique. Mais le rendez-vous ne se passera pas comme prévu pour le demandeur d'asile, Elisabeth Destin et son avocate.
Donc, il revient à l'Office pour recevoir cette décision, mais en réalité, il n'a pas juste reçu la décision. Alors, il a reçu une décision qui disait effectivement que c'était un autre pays, que c'était la France, qui devait traiter sa demande de protection internationale et que c'était là-bas qu'il devait se rendre. Mais on l'a immédiatement arrêté sur place.
Le demandeur d'asile est alors envoyé en centre fermé en vue de son transfert en France. Pourtant, rien n'indiquait sur sa convocation qu'il risquait cette arrestation. Pour son avocate, l'Office a trompé son client.
On plaide la tromperie parce qu'en fait, on le convoque et on se dit il est là, donc on va l'arrêter. C'est plus simple. Et la personne est obligée de se présenter en réalité. Parce que si elle ne se présente pas, elle ne reçoit pas la décision. Et sa procédure, elle est clôturée. Donc elle est forcée de se présenter, on sait qu'elle va se présenter et on en profite pour l'arrêter.
Le demandeur d'asile a obtenu gain de cause, la Cour a ordonné sa libération. L'Office des étrangers déclare prendre acte de cette décision de justice et d'y vouloir à l'avenir communiquer plus clairement le motif des convocations.
Un récit de Baptiste Tupin.
Les principaux ministres du gouvernement de Weaver à nouveau au chevet du budget de la défense ce midi.
L'équation est connue, il faut booster nos moyens et investissements en défense vu le contexte international. Il y a désormais bien unanimité au sein du gouvernement Arizona pour porter nos dépenses à 2% du PIB d'ici juin. 2%, peut-être même plus. L'Union européenne a promis de permettre aux États de sortir temporairement leurs dépenses militaires des règles budgétaires habituelles. Mais pour le Premier ministre Bart de Weaver, cela ne veut pas dire un chèque en blanc, il faudra bien compenser ces dépenses militaires. Je vous propose de l'écouter.
L'Europe exige des pays membres qu'ils vont dépenser beaucoup plus pour la défense. Donc si on doit le faire à court terme pour la plupart des États membres, ça pose problème. Aussi pour la Belgique, on a fait beaucoup trop peu. Donc si on doit sauter vers les 2% cette année-ci, ça c'est une saute énorme. Un tout petit peu de souplesse de l'Europe dans la comptabilité, ça peut nous aider, mais on ne peut pas exagérer parce que de l'argent, c'est de l'argent. Et à la fin du jour, quelqu'un doit payer. Et ce serait irresponsable dans notre situation budgétaire avec la dette nationale qui est beaucoup trop haute, de simplement dire on va utiliser à 100% l'escape clause que l'Europe a prévu. Donc on doit se mettre d'accord de tout ce qu'on peut mettre dedans. Ce n'est pas facile, mais tout le monde est quand même d'accord que c'est nécessaire. Donc on va trouver le chemin.
Bart de Weaver au micro de Fabien Van Eekhout. La réflexion va continuer au sein du gouvernement pour voir quels moyens peuvent être utilisés pour chercher de l'argent dans la défense, pour la défense, parallèlement à l'élaboration du budget fédéral attendu d'ici la mi-avril au Parlement. 9 mois après les élections, Bruxelles est toujours sans gouvernement. Et cet après-midi, 6 des 7 partenaires pressentis pour former le futur exécutif se sont réunis. Après 3 heures d'entretien, ils se sont séparés confiants. Marc Ochinski, il n'y a toujours pas de gouvernement, mais on avance.
Oui, on sait le nœud du problème. Le PS ne veut pas de la NVA dans l'aile flamande du gouvernement bruxellois. Et les libéraux, Openveldé en tête, ne veulent pas de gouvernement bruxellois sans la NVA. Or, la réunion de cet après-midi s'est tenue sans l'OpenVLD, puisque son chef de file, Frédéric de Gurt, est en vacances au ski. Qu'à cela ne tienne, une nouvelle réunion est prévue lundi et Elke van den Brand, groen et ex-informatrice, insiste.
Entre la réunion lundi et ici, il y aura beaucoup de contacts informels entre tous les partis pour trouver une solution, parce qu'on s'est consciente que l'impasse ne peut pas bloquer Bruxelles.
Monsieur de Gurt pourrait rentrer du ski ?
C'est à lui de décider comment ils s'organisent pour les vacances.
La réunion de lundi parlera surtout du budget. Tous les partis sont d'accord. La situation devient alarmante et nécessite de ne plus attendre. Christophe de Beukelaar, chef de file désengagé.
Je pense et j'espère qu'à un moment donné, la pression du monde de l'entreprise, du monde du social et de la santé, qui est aujourd'hui en train de licencier des gens par absence de gouvernement, eh bien, j'espère que cette pression deviendra suffisamment grande sur les épaules de tous les partis.
Les partis participants à la réunion de ce mercredi ont fixé un délai qu'ils estiment réaliste. Un gouvernement bruxellois pourrait voir le jour avant le 8 mai, la fête de la région bruxelloise.
Ils se sentent menacés. Ils sont venus le dire devant le Parlement de Wallonie cet après-midi. Plus de 150 CISP des centres d'insertion socio-professionnelle forment des adultes sous-qualifiés et très éloignés de l'emploi. Mais le gouvernement régional n'est pas satisfait des résultats. Rudi Hermans, il a déjà diminué leurs moyens de fonctionnement.
Les CISP proposent plus de 470 filières de formation dans la construction, l'ORECA, les espaces verts ou le commerce notamment. Mais avec 2/3 de stagiaires sans diplôme de secondaire, ces centres font bien plus que cela. Albert Deliège dirige plusieurs structures dans la région utoise.
C'est bien plus que de la formation. On les accompagne dans leur recherche de logement. Ils ont toute une série de problèmes, parfois d'ordre psychologique ou d'assuétude, des problèmes financiers. On les aide dans leur démarche administrative. Oui, on est présent, effectivement, de manière globale, je vais dire.
Le gouvernement wallon attend plus de résultats en termes de mise à l'emploi. Le ministre en charge du dossier l'a répété au Parlement, Pierre-Yves Jollet.
Il vous parle de 5 700 000 heures de formation. Bien, je m'inquiète quand même. Je pense que les résultats du taux d'emploi seraient peut-être un peu différents si ça fonctionnait si bien que ça.
Le secteur insiste, ce type d'apprenants précarisés réclame un travail en profondeur, plus lent. Anne-Hélène Lulling, secrétaire générale de la Fédération représentative.
Notre public est un public peu scolarisé, qui a connu l'échec scolaire pour la plupart d'entre eux. Donc forcément, le parcours est plus ou moins long. C'est pas en 2-3 mois que les personnes vont pouvoir atteindre leurs objectifs.
Avec des subventions déjà rabotées, les CISP craignent des fermetures de filières, voire de centres entiers. Ils demandent d'urgence une concertation avec le ministre de l'Emploi et de la Formation.
Il y a des failles dans la sécurité aux aéroports de Zaventem et Charleroi. Des contrôles de sûreté ont été organisés en février. Le but était de vérifier si les agents étaient capables de détecter des bombes factices cachées dans les bagages en soute. Et les résultats sont inquiétants. À Charleroi, par exemple, seul un explosif sur deux a été détecté. Écoutez Cécile Neven, ministre wallonne des aéroports.
La déficience est qualifiée de sérieuse. Ça signifie qu'il va falloir remédier à la situation, puisque évidemment la priorité, c'est la sécurité des passagers, c'est la priorité absolue. Et donc dès que j'ai eu connaissance des résultats de cet audit, de ces tests, j'ai immédiatement sollicité les services de l'aéroport pour qu'ils puissent remédier sans délai à la situation. J'ai eu réponse des services de l'aéroport sur le fait que ces mesures correctrices sont bien en œuvre depuis le 3 mars, et j'ai reçu tous les apaisements quant à toutes les sollicitations que j'avais faites.
Interview réalisée par Rudy Hermans. Un chiffre dans ce journal, près de 4000 Belges ont choisi de se faire euthanasier en 2024. C'est deux fois plus qu'il y a 10 ans. D'année en année, le nombre d'euthanasies est chaque fois plus important. Mais la commission de contrôle de l'euthanasie manque de moyens pour gérer toutes ces demandes. Reportage signé Maïté Warland et Sophie Mergen.
Donc je cherche un rouge que je ne trouve point.
Pinceau à la main, toile colorée disséminée sur la table, à 87 ans, Inès savoure encore la vie.
Palette dégueulasse.
Mais elle le sait, tôt ou tard, elle optera pour l'euthanasie. Atteinte d'une maladie neurodégénérative, elle a fait une demande anticipée.
Moi, je me suis dit, le jour où j'en aurais vraiment marre, je me ferais euthanasier. C'est quelque chose que je trouvais normal. Bon, mais de ne pas devenir une vieille ruine répugnante ou... Non.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi dépénalisant l'euthanasie en 2002, le nombre d'euthanasies a été multiplié par 10. En 2024, ce nombre a encore augmenté de 17% par rapport à l'année précédente, mais la commission de contrôle déplore un manque de moyens. C'est elle qui est chargée de vérifier si les conditions légales sont respectées. Jacqueline Hermans est membre de cette commission.
On travaille avec deux secrétaires depuis 2002. En dépit de la progression des déclarations d'euthanasie. On a vu nos tâches décuplées. Les conséquences que l'on craint, c'est qu'à un moment donné, on pourrait commettre des erreurs.
Aujourd'hui, les euthanasies représentent près de 4% des décès en Belgique. La majorité des demandes sont liées à un cancer.
Il est 18h11 sur la première, après avoir à nouveau massivement bombardé la bande de Gaza. L'armée israélienne a commencé une incursion terrestre sur le petit territoire palestinien.
L'armée se déploie de manière à le couper en deux, d'est en ouest. Ce corridor qualifié de zone tampon par Israël est large de 6 km. En 48 heures, les bombardements ont fait au moins 970 morts. Israël veut faire pression sur le Hamas pour qu'il libère les derniers otages israéliens. Et le Premier ministre Benjamin Netanyahou a prévenu que désormais les négociations ne se déroulerait que sous le feu. Pendant ce temps-là, en Israël, des manifestants ont marché vers le domicile de Benjamin Netanyahou à Jérusalem pour protester contre la reprise de la guerre à Gaza. Écoutez notre correspondante Danielle Krigel qui a suivi la manifestation.
C'est la plus importante manifestation depuis le début de la guerre. Des dizaines de milliers d'Israéliens venus de tout le pays sont rassemblés à proximité du domicile du Premier ministre Benjamin Netanyahou avec trois revendications. Cesser les opérations à Gaza, conclure un accord qui permettra la libération des otages et aussi empêcher la mise en place du régime autocratique voulu par le gouvernement. Yaël, une manifestante, donne le ton.
Pour moi, là, la dictature est en train de s'installer. Là, encore ce matin, ils ont changé la façon de nommer les juges. Voilà, on atteint tous les pouvoirs sont atteints. Il n'y a plus l'exécutif et le législatif ne font qu'un depuis longtemps et là on est en train de toucher au pouvoir judiciaire.
L'opposition veut empêcher le limogeage du patron du Shin Bet qui pourrait intervenir dès demain. Il faut savoir qu'il enquête sur les liens financiers qui lieraient des conseillers de Benjamin Netanyahou au Qatar et cela en pleine guerre. Ce n'est pas tout. Le gouvernement prépare des textes de loi qui vont réduire les pouvoirs de la Cour suprême. Il envisage aussi de limoger dès dimanche prochain la procureure générale. Les manifestants ont l'intention de rester à Jérusalem afin de poursuivre le combat contre ce qu'ils appellent la dictature.
S'achemine-t-on vers un cessez-le-feu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda? En tout cas, les présidents des deux pays se sont rencontrés hier en grand secret au Qatar. Et ils ont discuté d'une trêve, François Zoualmec, dans le dont les conditions restent encore floues.
Cette rencontre entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi, c'est un mini coup de théâtre dans ce conflit qui a fait des milliers de victimes et des centaines de milliers de déplacés. Sur une photo, les deux hommes apparaissent tout sourire et posent aux côtés de l'émir du Qatar. Le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo s'est intensifié ces derniers mois. Le mouvement rebelle du M23, soutenu par le Rwanda, a réussi à prendre le contrôle coup sur coup de deux villes importantes, Goma d'abord et Bukavu quelques semaines plus tard. Le Rwanda affirme qu'il veut protéger les Tutsis congolais qui vivent dans l'Est. Le Congo rétorque que son voisin rwandais veut faire main basse sur les minéraux précieux recelés dans le sous-sol congolais.
Après Vladimir Poutine hier, Donald Trump s'est entretenu avec Volodymyr Zelensky. Le président américain a parlé d'un très bon appel. Volodymyr Zelensky a assuré que Kiev respectera ce cessez-le-feu partiel sur les infrastructures énergétiques si Moscou fait de même. Sur le terrain, les combats se poursuivent dans les deux camps. Précisons encore que Kiev et Moscou ont procédé à un échange de 175 prisonniers de guerre. C'est l'un des échanges les plus importants depuis le début de la guerre, il y a 3 ans. Un nouveau revers juridique pour l'administration Trump aux États-Unis. Cette fois, un juge fédéral suspend la fermeture de l'USAID, l'agence américaine au développement. Ces derniers jours, plusieurs juges ont ainsi rappelé le président américain à la norme en annulant certaines de ses décisions illégales. En réponse, Donald Trump veut destituer un de ses juges, ce qui lui vaut un rappel à l'ordre de la Cour suprême. Jean-François Herbeck, c'est un véritable bras de fer entre le pouvoir politique et la justice auquel on assiste aux États-Unis.
Pas un jour sans un jugement qui torpille une décision du président américain ou de son administration. La fermeture d'USAID ce mardi, une mesure d'Elon Musk qui gèle toute l'aide américaine à l'étranger, mais qui viole aussi la Constitution, selon un juge fédéral. Un juge voyou, au dire de la Maison-Blanche. Hier toujours, une autre magistrate bloque le décret présidentiel excluant les transgenres de l'armée. Et la veille, un troisième juge ordonnait l'arrêt de la déportation de présumés membres d'un gang vénézuélien. Ce juge, Donald Trump, le qualifie de fauteur de troubles et voudrait le destituer. Pas question, réplique le président de la Cour suprême qui le recadre. Depuis plus de 2 siècles, dit le Chief of Justice John Roberts, il est établi que la destitution n'est pas une réponse appropriée à un désaccord concernant une décision judiciaire. C'est donc le conflit ouvert, une situation extrêmement rare qui pourrait déboucher sur une crise constitutionnelle.
Un mot encore dans l'actualité sportive, les Diables Rouges voyagent en ce moment vers Murcie en Espagne où ils affrontent l'Ukraine demain en match aller des barrages de la National League. Ce matin, avant de monter dans l'avion, ils se sont entraînés sous le soleil de Tubize. 26 des 28 joueurs appelés par Rudy Garcia, le nouveau sélectionneur, étaient sur la pelouse. Manquaient à l'appel Arthur Théat et Malik Fofana, tous deux forfaits pour le match de demain et pour la rencontre retour à Genk dimanche.
Et sous le soleil de Reyer, c'était le journal de 18h avec Sophie Léonard. Merci Sophie, bonne soirée.
Avec plaisir.
18h16, c'est la suite du Monde en direct à suivre jusqu'à 19h avec dans un instant Un jour une carte et Wahoub Fayoumi. Bonsoir Wahoub.
Bonsoir Pascal.
On est en Syrie avec vous ce soir.
Oui c'est ça, on ira en Syrie pour faire connaissance avec les Alaouites, une communauté un temps très puissante mais aujourd'hui violemment réprimée.
150 nouveaux radars fixes seront installés cette année sur les routes wallonnes. Est-ce une bonne nouvelle pour la sécurité routière? C'est le débat d'Allô le Monde. On attend vos appels au 070 66 55 44.
Et dans quelques secondes, justement, un point sur vos conditions de circulation. A tout de suite.
La première,
Le Monde en direct.
Julie Morel et Pascal Claude.
Je n'ai pas d'héritier et j'avoue que les fins de mois sont parfois un peu difficiles. J'ai appelé Trévis Viager, ils ont évalué mon appartement, m'ont trouvé un acquéreur et j'ai non seulement reçu directement une somme d'argent, mais je perçois également une rente tous les mois.
Appelez Trévis Viager au 02 343 22 40.
Les routes, et c'est Guillaume Kermans qui vous aide à circuler ce soir.
Blocage toujours en cours sur l'autoroute 19, évitez le secteur à tout prix. Il y a un dépannage à Zemst, une seule voie disponible plutôt que 3 habituellement, direction Malines, avec des répercussions jusque sur le ring de Bruxelles, dans l'échangeur de Diguem et même au-delà. Depuis Zaventem, on voit que c'est très très lent pour l'instant. Restez bien patients, maintenez les distances de sécurité. On parle d'une heure pour effectuer la traversée, donc c'est vraiment très compliqué en ce moment. Et puis nous avons aussi ce ralentissement du côté de Grunendal. C'est peut-être un accident, ça reste à confirmer. En tout cas, ça ralentit depuis le carrefour Léonard. Des minutes supplémentaires sur 3-4 km. Et puis embouteillage résiduel du côté de l'autoroute 40 et de l'échangeur de Longsin. Trafic en amélioration, mais il reste pas mal de monde. C'est assez dense entre l'aéroport et l'échangeur de Longsin.
Il est des fiertés que l'on aime partager. Thomas Piron a été élu marque de l'année 2025. Merci à nos clients, partenaires et équipes qui nous ont ouvert la route.
Le Monde en direct sur la première.
Et c'est un jour une carte et ce soir nous allons en Syrie.
En Syrie où le chef intérimaire du pays, Ahmad al-Shara, a lancé il y a quelques jours un appel à l'unité. Cela intervient alors que des membres des forces de sécurité du nouveau gouvernement auraient tué des centaines de civils, des civils qui appartiennent à la minorité religieuse alaouite, celle dont est issu le président déchu Bachar el-Assad. On va donc s'intéresser à ces alaouites avec vous, Waoub. Qui sont-ils ?
Eh bien tout d'abord un rapide coup d'œil aux réactions suscitées par le massacre qui a lieu il y a une semaine en Syrie. Les inquiétudes les plus grandes et la colère la plus forte, eh bien on les a observées en Turquie. Des manifestations se sont succédées surtout dans l'extrême sud du pays, là où est située la grande ville d'Antakya, Antioche en français. Pourquoi ? Eh bien parce que l'émotion est grande dans cette région de Turquie. Elle abrite une partie de la communauté alaouite. Ses membres parlent pour la plupart arabe, à l'image des alaouites de l'autre côté de la frontière, toute proche, en Syrie. Cette communauté est donc majoritairement présente dans ces deux pays, la Turquie et la Syrie, mais on les retrouve aussi en Irak et au Liban. En Syrie, le pouvoir était jusqu'il y a peu entre les mains d'alaouites, puisque la dynastie des Assad, Hafez le père et Bachar le fils, sont, on le sait, issus de cette communauté.
Et que représentent, Waoub, les alaouites par rapport aux autres communautés en Syrie ? Ils sont nombreux ?
Eh bien, les alaouites, c'est la minorité la plus importante du pays, plus ou moins 12% de la population. Ils vivent surtout sur le littoral, à l'est du pays, autour des villes côtières de Latakié, de Tartous. Il y en a aussi qui sont installés près de Homs. Rappelons que la Syrie, c'est un exemple de cette région du monde où des dizaines de communautés se côtoient depuis des centaines d'années. Le pays, qui compte environ 26 millions d'habitants, abrite des sunnites, largement majoritaires, des chrétiens d'Orient, pour la plupart orthodoxes donc, mais aussi maronites et catholiques, des Kurdes, des Druzes, des Yézidis et d'autres communautés encore. Alors tout comme les Druzes, les Alaouites, eux, sont religieusement associés à l'islam chiite, en opposition donc avec les sunnites, car ils estiment que le successeur du prophète dans l'islam est son cousin et gendre Ali. Il représente même une divinité pour eux. Mais leurs croyances sont souvent postérieures à l'islam. Ils sont syncrétiques. Ils croient par exemple à la réincarnation, ils suivent des fêtes d'autres religions, leurs rites sont secrets et au quotidien ils sont laïcs et plutôt libéraux. Ces pratiques leur ont valu d'être considérées comme une secte, tant par les sunnites que par les chiites d'ailleurs.
Est-ce qu'ils ont toujours été aussi intimement associés au pouvoir que pendant les années Assad ?
Eh bien, leur histoire en Syrie est en réalité faite de haut et de bas. Même s'ils ont pu s'étendre dans la région au cours des siècles, ils ont souvent aussi été persécutés. Si l'on en vient à l'histoire récente, au XXe siècle, sous le mandat français, ils ont été tour à tour réprimés, puis promus avec un territoire qui leur était propre, qui correspond à la région littorale, là où ils sont les plus nombreux aujourd'hui. Enfin, on sait que le pouvoir sécuritaire des Assad a largement recruté ses officiers de l'armée au sein de cette communauté. Une armée associée au massacre, de la guerre et de la répression. Aujourd'hui, tous les alaouites sont donc désignés comme indésirables par les plus radicalisés des gagnants de la guerre, élément aggravant leur région côtière qui abrite les importantes infrastructures portuaires du pays et par ailleurs fortement convoitée par les éléments du nouveau pouvoir syrien.
Waoub Fayoumi, c'était un jour une carte, une séquence que vous pouvez retrouver quand vous le souhaitez sur Ovio ou en podcast. Merci à vous Waoub. 18h21, la sécurité routière en débat ce soir dans Allô le Monde. Dans quelle mesure est-ce que les radars fixes y participent ? Vos appels, c'est maintenant au 070 66 55 44. À tout de suite.
La première,
Le Monde en direct.
Visitez nos showrooms Bellisol et découvrez nos châssis et portes nouvelle génération à des conditions de lancement exceptionnelles.
Bellisol.
Une valeur sûre à vie.
Non, c'est pas un mot que j'aime entendre. Pourtant, mon expert UCM n'hésite pas à me le dire. Surtout si c'est pour le bien de mon entreprise.
Chez UCM, nous sommes comme vous, engagés et sincères avec nos clients. Et en tant que chef d'entreprise, c'est exactement ce que vous attendez d'un partenaire RH, non ? UCM, découvrez nos solutions RH juste pour vous sur ucm.be.
Peugeot.
je suis complètement séduit par mon nouvel utilitaire Peugeot. Dernière étape, choisir les options. Un aménagement supplémentaire de mon espace de chargement ou un système de navigation avec écran tactile de nouvelle génération.
Avec les utilitaires Peugeot, ce n'est pas ou, mais et.
Ah !
Parce qu'en mars, vous recevez jusqu'à 2000 euros d'options en cadeau sur l'ensemble de la gamme utilitaire. Pour en profiter, rendez-vous dans votre point de vente Peugeot. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur Peugeot.be.
Vous avez décidé de vous remettre à la muscu. Un poids plume testostéroné qui réclame des protéines.
Mes muscles ont faim.
Oh là là, mais comment entretenir ce corps de rêve?
Mais je peux, j'ai Lidl.
Ah oh mais oui, jusqu'à mardi inclus via l'appli Lidl Plus. 33% de réduction sur un kilo de filet de poitrine de poulet. Vos
délicieux plats de poulet.
Notre prix Lidl. Lidl, pour tous ceux qui comptent.
Vous cherchez un rendement pour vous, votre région et la planète? Découvrez comment sur vdkbank.be. VDK Bank, triplez votre réflexion.
Osez voir grand pour votre business.
Yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka.
Croquer Apple.
Yaka.
Niquer Nike.
Yaka.
Doubler Tesla.
Yaka.
Faire déchanter Spotify.
Yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka.
Rendez-vous sur l'écho.be/yaka. L'écho, prenez de l'avance.
La première et le botanique présentent bientôt en concert Ljubljana. Charles. Et miel de montagne. Info botanique.be avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, La Libre et Moustique.
Le monde en direct.
18h24, en 2025, 150 radars fixes seront installés sur les routes wallonnes.
Ça peut sembler beaucoup, mais c'est moins que ce qu'avaient demandé les bourgmestres et les zones de police en Wallonie. Pourquoi ? Eh bien parce que les capacités de la justice et de la police seraient insuffisantes. C'est en tout cas ce qu'a expliqué le ministre de la Mobilité, François Desquennes, devant le Parlement wallon récemment.
Faut-il plus de radars sur nos routes ? Est-ce la meilleure solution pour encore diminuer le nombre d'accidents ? On en débat ce soir dans Allô le Monde. Vous formez le 070 66 55 44 pour interpeller nos invités ou leur poser une question, nous faire part de vos réactions. Vous pouvez également vous faire entendre via WhatsApp.
Allô le Monde sur WhatsApp 0471 200 500. 0471 200 500.
Et je salue nos deux invités avec nous ce soir, Lorenzo Stefani, porte-parole de Touring, et Benoît Godard, porte-parole de l'Institut Vias. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et soyez les bienvenus. Alors, on va immédiatement vous poser la question qui va nous occuper pendant les 20 prochaines minutes. Faut-il, oui ou non, continuer à installer des radars ? Benoît Godard, d'abord.
Mais oui, les radars ont fait leurs preuves. Hein. On le voit, ces 10 dernières années, le nombre d'accidents a baissé de 10%, mais le nombre de tués, lui, a baissé de 40%. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les accidents sont moins graves qu'il y a 10 ans, et ça c'est notamment dû au fait qu'il y a de plus en plus de radars tronçons. Ça c'est une première chose. Et deuxième chose, une enquête récente a montré que 2 conducteurs sur 3 qui reçoivent un PV pour excès de vitesse adaptent leur comportement. Mmh. Et donc là c'est essentiel, puisque le but d'un radar n'est évidemment pas de flasher, le but c'est de faire changer les comportements. Et là où les radars sont installés, systématiquement, pour des radars fixes, on constate une diminution du nombre d'accidents d'environ 30%. Pour les radars tronçons, on est plutôt dans une tendance de 50 à 60%. Donc, en d'autres termes, les radars permettent d'atteindre les buts, les objectifs fixés en matière de sécurité routière.
Votre réaction, Lorenzo Stefani, j'ai l'impression que votre mou laisse entendre que vous êtes moyennement d'accord.
Ben, on est moins pour la répression, nous, on est plutôt pour mettre en place un objectif qui est l'adhésion. Il est très important de travailler sur la masse qui circule plutôt que sur ceux qui voilà ont l'habitude d'avoir une contravention et qui changent effectivement leur comportement pendant un petit temps, mais les chiffres ne disent pas si ça dure quelques mois et puis l'année suivante ils retrouvent d'où la tendance à vouloir mettre un permis à point.
Mais ça veut dire quoi concrètement travailler sur l'adhésion?
Mais les gens, la grande majorité des gens, et M. Godard ne sera certainement pas contre, sont des gens qui sont des bons pères de famille et font attention. Il y a une minorité, et c'est celle-là qu'on doit essayer de cibler. Mais Lorsqu'on voit ce qui se passe en Scandinavie, qui est le premier élève en termes de nombre de morts, comme la Suède, et qui pratique des techniques du V85 qui fait qu'on prend un tronçon bien clair et que 85% des voitures roulent spontanément, par exemple, à 70 km/h, eh bien, c'est la réglementation des 70 km/h qui sera adaptée pour ce tronçon-là.
Donc, vous nous dites, en Scandinavie, ce sont les automobilistes eux-mêmes qui déterminent la limitation de vitesse.
Dans la grande majorité des cas, et certainement dans les zones
accidentées. On observe la vitesse à laquelle la majorité roule. Et on détermine que c'est la limitation
Parce qu'on voit que spontanément, l'infrastructure, les gens parviennent à rouler, c'est plus fluide, les gens se sentent en sécurité, ils ne sont pas en permanence en train de regarder à quelle vitesse je peux rouler et quel est le panneau. Parce que spontanément, lorsque vous roulez à une vitesse qui est permise, eh bien à ce moment-là, vous êtes concentré sur la route. Mmh. Et c'est une toute autre approche.
On fera réagir Benoît Godard.
Le problème,
Godard.
C'est que le ministre de Ken, il hérite d'un système et qu'il y a à un moment donné, et là, nous ne sommes pas contre ce que M. Godard vient de dire. Au contraire, il faut trouver des solutions à court terme, mais à long terme, il faut changer cette politique de répression par une incitation et voir qu'est-ce que les gens font spontanément.
Ouais, on pourra faire réagir Benoît Godard à ça dans un instant, mais j'aimerais que vous répondiez aussi à l'argument qu'il avançait de la baisse significative du nombre de tués et du nombre d'accidents également. Est-ce que pour vous, on peut imputer directement cette baisse du nombre de victimes au radar?
Non. Lorsqu'on compare chaque année, le parc automobile, on voit les voitures de société, c'est principalement des voitures qui font le plus de kilomètres, donc il faut voir qui roule le plus et qui roule le moins, sont beaucoup mieux équipées. C'était à l'époque la ceinture de sécurité, puis les airbags, puis les systèmes d'assistance à la
conduite. Donc c'est parce que les voitures sont plus sûres qu'il y a moins de tués. Pour vous, c'est ça la principale explication?
Une des grandes explications, et c'est pour cela que l'industrie automobile a investi des milliards, et il y a des normes qui ont même été imposées, comme la ceinture de sécurité, les systèmes de signalisation, et maintenant, et on va vers des voitures, le V2X, des voitures qui seront interconnectées l'une avec l'autre, et qui vont pouvoir détecter que ce soit un transport en commun, que ce soit un usager vulnérable, et pouvoir freiner et anticiper le mouvement.
Bonsoir Joël.
Oui, bonsoir.
Vous nous écoutez en province de Liège et vous, manifestement, les radars et les amendes qui peuvent accompagner les radars vous ont poussé à changer vos comportements.
Exactement.
Racontez-nous.
Ben, je raconte parce que je pars souvent en France. Donc, voilà. Donc, j'ai appris une discipline là-bas. Pourquoi ? Parce qu'à chaque entrée de village, sur une nationale, sur une départementale, les restrictions sont très sévères. Donc, vous dépassez de 50 km/h, vous passez à 51 km/h, vous avez directement un TV. Mmh. Donc, j'ai été pris deux fois, pas trois fois.
Donc, voilà, on voit clairement, avec ce que vous nous racontez, les effets concrets des radars. Benoît Godard, il y a des mesures françaises qui pourraient servir de leçon à la Belgique ?
Oui, certainement. De toute façon, c'est clair que les marges de tolérance en Belgique sont plus élevées que dans les autres pays. Donc, ça veut quasi dire qu'aujourd'hui, en Belgique, la limitation de vitesse sur autoroute, c'est pratiquement 130. Hein. Et ça n'avait vraiment aucun sens.
Expliquez-nous ça pour que tout le monde comprenne bien. En gros, si on est flashé à 130, on paye quasi rien. C'est ça que vous nous dites ?
Donc, quand on retire 6% de votre vitesse réelle, donc si vous roulez, vous êtes flashé à partir de 129, à partir de là, on vous retire 6%, ça fait 121, à partir de là, vous êtes flashé. Et en dessous de 100 km/h, on vous retire 6 km/h. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez tous les jours rouler à 56 km/h en agglomération, tous les jours rouler à 128 km/h sur autoroute, et vous ne serez jamais flashé, puisque à partir du moment où on retire la marge de tolérance, vous arrivez dans les limites. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il faut bien dire aussi que nous, on croule vraiment sous les demandes des gens qui disent « Moi, dans ma rue, on roule vraiment trop vite. Je voudrais un radar, que dois-je faire ?» Donc, on renvoie vers les bourgmestres. Les bourgmestres, ils ont une pression énorme. Tout le monde voudrait un radar en face de chez soi. Ça, c'est clair et net. On le voit. Quand on a lancé l'action « Je flash aussi », donc les citoyens pouvaient indiquer un endroit où placer un radar. Notre centrale, elle a tout simplement été mise en chaos en quelques minutes, tellement on avait des demandes. Donc, il ne faut pas croire que les gens ne veulent pas des radars. Ce n'est pas vrai. Tout le monde veut un radar en face de chez soi. C'est fini le temps où on se faisait dépasser sur la troisième bande par des gens qui roulaient à 180. Aujourd'hui, maintenant, il y a des radars tronçons un peu partout. Maintenant, c'est vrai que la France a une marche d'avance par rapport à nous. Ils utilisent des hélicoptères, par exemple, lors des chassés croisés. Ils ont des jumelles que nous n'avons pas. Donc, c'est clair que par rapport à la France, on est un peu en retard.
Vous dites que la Belgique a un certain retard à rattraper, notamment en termes de radars tronçons. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de radars tronçons aujourd'hui, Lorenzo Stefani. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, on explique que c'est en fait deux.
D'un point A à un point B,
il y a
la moyenne
B.
de votre vitesse. Donc vous pouvez rouler à 180 sur quelques mètres et puis redescendre à 90 ou 110 et vous ne serez pas...
Parce que personne ne fait jamais, évidemment.
Mais ce qui est important oui,
non,
de savoir,
non, c'est que... C'est parce que vous
il y a beaucoup d'auditeurs qui font l'éloge des radars tronçons.
Vous donnez une explication qui est un peu orientée dans le sens, parce que vous ne
moi,
les aimez pas,
c'est
radars. Non, nous sommes pour les radars tronçons, mais que ce soit la réglementation de vitesse, elle doit être justifiée, cohérente, et le radar et le contrôle doit être aussi justifié. Est cohérent, c'est-à-dire que ça doit être dans des endroits accidentogènes. On ne flash pas en pleine nuit quelqu'un qui roule à 130 au lieu de 120 ou même 140 parce que il n'y a personne devant lui. On sait que les autoroutes, il n'y a pas d'obstacle. Et donc, et quand on compare la France, quand on arrive, ou même l'Allemagne ou la Suisse, quand on arrive dans des villages, la signalisation, la qualité des routes et la justification et la cohérence des limitations de vitesse sont énormes et bien plus efficaces.
Et quand on vous entend,
en Belgique,
tout le monde fait mieux.
Par exemple,
nous, en fait.
Vous avez des limitations de vitesse pendant les heures de pointe en Allemagne, ouais. Sur des périphériques. C'est limité que pendant les heures de pointe du matin et du soir, les autres et la nuit, il n'y a pas de limitation. Donc tout ça, ça veut dire, je vous comprends, vous conducteurs. Mm-hmm. Vous faites ça tous les jours, donc on va faire une réglementation qui essaie...
On en revient à l'adhésion que vous mentionniez au début de votre explication. Une réaction à ça, Benoît Godard, avant de rendre la parole à nos auditeurs. Est-ce qu'on suscite vraiment l'adhésion quand on flash en effet, en pleine nuit, ouais. Sur une ligne droite, pour quelques kilomètres-heure de trop.
Mais ce sont évidemment des exemples extrêmes. Je pense que 99% des gens ne sont pas flashés sur autoroute pour avoir roulé à 132 km à l'heure à 2h du matin. Allez, il faut rester honnête. La majeure partie du temps, ce sont des gens qui, en plus, sont flashés dans des endroits où il y a deux énormes panneaux en Wallonie sur autoroute. Et malgré les deux énormes panneaux, ce qui n'existe pas non plus partout à l'étranger, en Flandre, il n'y a pas ces deux énormes panneaux. Malgré ces deux énormes panneaux, il y a certains radars en Wallonie, c'est un radar fixe qui flash des milliers de gens chaque année. Donc, c'est incompréhensible que certaines personnes aient pris l'habitude de rouler si vite. Et maintenant, tout doucement, on voit, grâce au radar tronçon, que ces comportements changent. Il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont dit « Ah tiens, moi j'ai toujours roulé à 140, puis tout d'un coup, j'ai reçu mon PV ». Ah ben oui, pourquoi ? Parce que les marges de tolérance des parquets ont été abolies. Donc maintenant, on flash vraiment à partir de 129 sur autoroute. Avant, il y avait un laisser-aller, vous pouviez aller jusqu'à 140. Aujourd'hui, il y a moins de laisser-aller et on voit vraiment clairement un comportement qui a changé sur le terrain. Et son comportement, on va probablement le confirmer cette année puisqu'on a été faire une mesure de comportement en vitesse qui pourra confirmer ces dires.
Bonsoir Franck. Vous êtes un grand conducteur, vous passez beaucoup de temps en voiture apparemment et vous souhaitiez intervenir ce soir, on vous écoute.
Oui, exactement. Bon, outre les aspects de vitesse qui ont déjà été bien débattus, moi je mettais plutôt l'accent sur le fait d'en mettre 150 nouveaux en plus et d'accentuer encore sur la vitesse alors qu'on est quand même déjà pas si mal cadré en Wallonie. Par contre, oui, comme je disais, je roule plus ou moins entre 50 et 60 000 km par an depuis plus de 33 ans où j'ai mon permis. Donc au bas mot, on va dire 1 800 000 km, 40 fois la tour de la Terre. Et en fait, j'ai soufflé deux fois dans un éthylotest. Et la dernière fois, c'était à plus de 15 ans. Et donc, c'est aussi, à mon avis, un choix politique, mais en termes de sécurité routière, on sait très bien qu'un deuxième fléau sont la consommation d'alcool et de stupéfiants. Aujourd'hui, on sait clairement où ces substances sont consommées. Si on prend uniquement les week-ends dans les dizaines, centaines de stades de sport, de foot professionnel ou amateur, ou les discothèques, on sait très bien où les gens consomment. On sait très bien qu'il y a des parkings de dissuasion autour de ces endroits avec des centaines de voitures. Et combien de fois est-ce que ces parkings sont contrôlés en alcoolémie ? Zéro, je suis moi-même fan de foot, donc je vais tous les week-ends au stade. Jamais je n'ai soufflé dans un éthylotest après un match de foot. Alors qu'en fait, je paye, avec 50-60 000 km par an, entre 5 et 6 contraventions à 60. 33 et 80 euros, ça me fait 33, ça me fait 5 ans. Et donc, voilà, la question, c'est, y a-t-il vraiment une réelle politique de traquer la dangerosité sur la route par rapport à l'alcool et les stupéfiants? Ou simplement, ben voilà, on sait que les questions sont vides aussi, et donc, ben, ça...
On va poser la question tout de suite à Benoît Godard. Merci beaucoup d'être intervenu ce soir, Franck. Que répondez-vous à Franck, Benoît Godard?
Mais deux choses. Un, ce monsieur a raison quand il dit qu'à lors de certains événements, il n'y a pas assez de contrôle. Oui, pourquoi? Parce que, par exemple, une zone de police qui doit assurer la sécurité autour du stade n'a pas le personnel nécessaire pour ensuite faire des contrôles alcool. Donc ça, c'est assez criant. Maintenant, deuxième chose quand même, on n'a jamais eu autant de contrôles alcool cette année que pendant la campagne Bob. Je ne connais plus les chiffres par cœur, mais on était autour de 400-500 000 conducteurs qui ont été contrôlés. Donc le risque de se faire contrôler existe. Il ne faut pas croire qu'il est néant en Belgique. En moyenne, un conducteur se fait contrôler tous les 3 ans en Belgique. Et on est dans la même moyenne que les autres voisins européens. Donc il y a quand même un risque qui existe.
Mais vous qui connaissez bien les chiffres par rapport aux victimes d'accidents, etc., est-ce que les tués sur les routes, par exemple, on constate que c'est le week-end dans ces zones liées à des événements, liés aux zones festives? Est-ce que ça, c'est pas un argument qui plaide en faveur, si on veut plus d'efficacité et plus de sécurité routière, pour des contrôles qui seraient davantage sur l'alcoolémie, par exemple, que sur la vitesse avec des radars tronçons partout?
Mais il faut les deux, évidemment. On ne peut pas ne contrôler qu'en matière de vitesse, on ne peut pas contrôler qu'en matière d'alcool. Maintenant, oui, il y a plus de tués les nuits de week-end, notamment les nuits de semaine. Si on voit un nouveau phénomène qui est que certaines personnes anticipent le week-end et sortent déjà, notamment la nuit du jeudi au vendredi. Et là, à nouveau, le risque de se faire contrôler est moindre que pendant le reste de la semaine. Donc, bien sûr, dans un monde idéal, il faudrait plus de policiers pour faire des contrôles alcool, plus de policiers aussi pour faire des contrôles drogue, mais on ne peut pas dire qu'ils restent les bras croisés. Il y a d'énormes efforts qui sont effectués. Les chiffres de la dernière campagne BOP le montrent quand même, avec, on peut le souligner aussi, un pourcentage de conducteurs positifs qui n'a jamais été aussi bas. Donc ça montre quand même qu'on est dans la bonne direction.
Commentaire de Gilles sur WhatsApp. Bonjour, non seulement il faut plus de radars fixes et de tronçons, mais également arrêter de vendre, je cite, des bagnoles qui vont à des vitesses bien trop élevées pour quelques rares tronçons en Allemagne. C'est schizophrénique, nous dit Gilles. Et ça vous fait rire, Lorenzo Stefani?
Oui, parce que voilà, c'est une technologie, ça existe, c'est là. Alors il faut pas. Enfin, c'est assez compliqué. Bon, il y a des gens qui peuvent avoir et qui sont passionnés, qui aiment ça et qui peuvent le faire sur des circuits privés.
Mais à quoi
privés.
Ça sert?
Ça se fait.
Il y a les circuits privés, d'accord.
Ça existe. Ah, c'est comme demain, vous allez acheter un baffle, il va jusqu'à je ne sais pas combien de décibels, mais vous habitez dans un appartement, donc jamais, jamais, jamais, vous allez mettre le volume à fond. Alors pourquoi est-ce que ces baffles existent. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas acheter des baffles beaucoup moins chers et qui peut-être sont...
Ça pourrait être remis en question.
Donc oui, mais bon, voilà, c'est une technologie, le moteur, il est là, que vous alliez à 200 à l'heure ou à 120, eh bien voilà, il a en tout cas...
Ça ne sert à rien, disait Benoît Godard.
Non, je ne suis pas assez perfectionniste, expert dans la matière, mais tout ce qu'on peut dire, c'est que, et en ayant discuté longuement avec des patrouilleurs chez nous aussi, ce sont des technologies qui ont été accentuées pour limiter la consommation. Elle est limitée, d'ailleurs c'est un problème avec le 30 km/h parce que le système de rapport n'est pas fait pour rouler à 30 km/h sur des longues distances, ça consomme plus qu'à 50. Et donc c'est toute une technologie particulière et c'est en fonction des tours que vous avez. Il y a d'ailleurs une 6e vitesse sur les automatiques, il y a même 8 vitesses. Donc tout ça c'est une question de technologie, je pense que c'est peut-être pas le débat ici.
Non mais, c'est sur le principe, c'est vrai qu'on peut se poser la question parce que bon, des gens qui vont sur circuit en effet, ça existe, mais on sait que c'est quand même loin d'être la majorité. En l'occurrence, aujourd'hui, il y a plein de voitures avec lesquelles on peut faire 220, 230, parfois plus, km/h, et on ne peut rouler nulle part à plus de 120 km/h en Belgique. C'est quand même...
Que le débat soit ouvert, qu'on puisse étrangler des véhicules, mais ils
Benoît
sont
Godard,
étranglés après. Bon, ça a toujours été comme ça. On l'a vécu avec les motos dans les années 80.
Benoît Godard, ça sert à rien,
vous disiez. Oui, ça ne sert à rien, mais c'est une réglementation européenne. Donc la Belgique ne peut pas elle seule brider le moteur des voitures vendues sur son sol, sachant qu'il suffit de passer la frontière et en Allemagne, vous pouvez, sur certains tronçons d'autoroute, rouler à des vitesses illimitées. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, même en bridant les moteurs, vous n'allez jamais empêcher quelqu'un de rouler à 80 en agglomération et donc vous n'allez pas éliminer totalement le risque d'accident. Maintenant, c'est clair que Volvo a fait un premier pas en annonçant brider ses moteurs, je pense que c'est à 180, donc ça peut paraître déjà choquant, mais c'est un pas dans la bonne direction. Espérons que les autres vont suivre. Maintenant, c'est clair qu'il y a un gros lobbying de la part des constructeurs allemands, notamment, pour laisser ces moteurs débridés.
Merci pour cet échange de points de vue animé ce soir. Merci à vous, Lorenzo Stefani. Merci à vous, Benoît Godard. Bonne soirée. Merci, bien sûr, aux auditrices et auditeurs de La Première. 18h42. Dans un instant, nous partons à la découverte de notre cinéma intérieur. Comment notre conscience est-elle frappée par l'actualité? C'est l'une des questions que nous aborderons avec le neurologue Lionel Nakache. Il est l'invité du Monde en direct dans un instant.
Le Monde en direct sur La Première. Jusqu'au 31 mars, ne ratez pas nos conditions salon avec Mobalpa. Imaginez des espaces conçus spécialement pour vous. Chaque produit Mobalpa est le fruit d'un savoir-faire reconnu, une qualité supérieure qui dure dans le temps. Et chez Mobalpa, le sur-mesure n'est pas un luxe, c'est notre standard. Rendez-vous dans le magasin Mobalpa le plus proche de chez vous, où notre équipe dédiée vous accompagnera de la conception à l'installation de votre projet. Mobalpa, unique comme vous.
Dis, oui, le nouveau qui vient de commencer sur le chantier, il est plutôt efficace, hein?
Ouais, tu parles, et super polyvalent.
Ouais, il assure un max.
Un max. Et on n'était pas aussi sûr de nous pour notre premier jour de boulot, hein?
Non, ça c'est clair. Et tu me feras pas croire que c'est son premier chantier.
Non, bien sûr. Vous verrez d'ailleurs que le nouveau Volkswagen Transporter est paré pour tous les jobs. Maintenant avec 3 ans de garantie supplémentaire et à partir de 335€ par mois hors TVA en renting financier. Offre pour professionnels. Info sur volkswagen-utilitaire.be.
Comment la paire fait le bonheur de toutes les oreilles?
J'entends à nouveau toutes les questions.
Elle me va vraiment bien cette robe, tu trouves pas?
Même celle auxquelles je préfère plutôt pas répondre.
Avec les appareils auditifs La Paire, vous entendez à nouveau vraiment tout. Passez maintenant chez La Paire faire un test auditif gratuit. La Paire, du bonheur plein les oreilles.
Non, j'étais pas prêt quand mon expert UCM l'a dit pour la première fois. Mais comme c'était pour le bien de mon entreprise...
Chez UCM, nous sommes comme vous, engagés et sincères avec nos clients. Et en tant que chef d'entreprise, c'est exactement ce que vous attendez d'un partenaire RH, non ? UCM, découvrez nos solutions RH juste pour vous sur ucm.be.
En plus de votre banque payante, prenez aussi une banque qui vous paye, comme Keytrade Bank qui vous offre 50€ en ouvrant maintenant un compte gratuit. Keytrade Bank, la banque qui vous paye. Infos et conditions sur keytradebank.be.
Ciné Télé Revue vous invite à une chasse aux œufs exceptionnelle. Trouvez les œufs cachés chaque semaine dans votre magazine, découpez-les et collez-les sur le jardin gourmand présent dans votre magazine. Renvoyez-le nous gratuitement avant le 2 avril et tentez de remporter un lapin géant en chocolat, 5 kilos de petits œufs et un an de chocolat. Infos et conditions dans votre Ciné Télé Revue.
Ciné Télé Revue.
Suivez le guide.
La Première présente les 30 ans de la langue française en fête. Du 15 au 23 mars, 10 mois, 10 mots sur la planète. Ateliers, concours, animations, dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles. Programme complet, lalanguefrançaiseenfaite.be. Une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La Première.
Le Monde en direct.
Julie Morel et Pascal Claude.
À 18h45, la période que nous vivons expose nos subjectivités à d'incroyables potentialités, mais également à de sombres menaces qu'il importe de verbaliser, de discuter, voire de résoudre.
C'est ce qu'écrit notre invité dans son nouvel essai. Il est neurologue, chercheur en neurosciences et membre en France du Comité consultatif national d'éthique. Sujet, es-tu là ? C'est le titre de son nouvel essai.
Bonsoir Lionel Nakache.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu, vous êtes à 20h en conférence à Volubilis à Bruxelles. Et pour vous accueillir, nous avons opté avec Julie pour ce rugissement. Vous l'avez peut-être reconnu,
c'est la MGM.
C'est exactement Léo le Lion, la mascotte d'un célèbre studio hollywoodien. Et ce choix s'est opéré parce que c'est l'une des images fortes, si je puis dire, de vos recherches, celle sur notre cinéma intérieur logé dans nos cerveaux. Ça veut dire que nous sommes toutes et tous des cinéastes. Il y a 3 cinéastes en ce moment en studio ?
Oui, oui, il y en a au moins 3, et puis il y a tous ceux et celles qui écoutent.
Ça fait du monde, là.
Et l'analogie avec le cinéma, au dehors de, vraiment de l'aspect artistique et qui nous plaît pour la plupart d'entre nous beaucoup, il y a vraiment des mécanismes profonds, des similitudes entre les deux. Je peux vous en donner un rapidement. Le miracle, la magie du cinéma, au-delà de l'aspect émotionnel, c'est qu'on a tous appris ça au collège. Quand vous êtes au cinéma ou sur un écran, même smartphone, en fait, il y a une série d'images, on pourrait appeler mathématiquement discrètes, des images fixes qui sont projetées les unes après les autres au cinéma, le fameux 24 images secondes pendant longtemps. Mais ce dont nous faisons, nous, subjectivement, l'expérience, donc notre caméra subjective, on pourrait dire, ce que nous percevons quand nous sommes face à un écran, c'est pas la suite d'images fixes. On perçoit un film continu. On perçoit quelque chose qui a une continuité, un mouvement continu. Et en réalité, l'écart entre ce qu'il y a sur l'écran et ce que vous percevez, c'est ce qui est construit par votre cerveau. C'est-à-dire qu'en réalité, vous percevez un film qu'on ne vous a pas montré. On vous montre une série d'images. Alors c'est vrai au cinéma, mais c'est vrai même ce soir là dans le studio. Ce qu'on a découvert à partir des années 60, 80, c'est qu'en réalité, même en lumière naturelle, c'est comme ça que ça se passe. Donc dans le vrai cinéma intérieur, on est à la fois à la caméra qui tourne, on fait des sortes de snapshots de ce qui se passe devant nous, 10 images secondes à peu près, et puis on invente le film continu. Et puis on est le scénariste, on est le spectateur, on est le scénariste, on est plein de choses en même temps.
Et l'acteur principal, c'est le jeu ?
Et c'est le jeu, J-E, absolument, oui, c'est que évidemment on est tous, de certaine manière, le héros de notre cinéma intérieur, de notre film intérieur. Alors ce héros...
On bosse beaucoup là.
Oui, mais la psychologie, elle nous a montré que ce héros, il peut avoir plusieurs tonalités. Ça peut être un anti-héros, ça peut être un héros qui se décide d'être passionné par d'autres personnes, c'est pas le problème. Mais en tout cas, effectivement, la vie subjective, c'est une vie qui est toujours racontée à la première personne. C'est notre film intérieur, et on peut commencer à rentrer dans certains des rouages de ce mécanisme. Je vous parlais, ça peut paraître surprenant ce que je vous disais sur les images, mais c'est vraiment comme ça. Et vous l'avez signalé, je suis à la fois chercheur et médecin. Et du point de vue neurologique, on a des situations cliniques dans lesquelles certains patients vont perdre certains mécanismes du cinéma intérieur. Et donc, par exemple, dans la vie de tous les jours, voient la vie de tous les jours comme une suite d'images fixes. Ils n'arrivent pas à inventer le mouvement entre deux images, vous voyez.
Mais donc, confrontés aux mêmes images, on a tous un film différent.
Absolument.
Ici, on est trois dans le studio de la première, on voit à peu près la même chose. Enfin, moi, je vous vois, vous voyez moi.
Moi, je vous vois tous les deux.
Mais c'est vrai que l'expérience cinématographique qu'on en a est totalement différente, parce qu'on a une expérience différente, parce qu'on a des vies différentes et des référents différents. Et c'est la même chose pour toutes les images que l'on reçoit, par exemple, de l'actualité. On parle beaucoup de ça en ce moment. On est tous confrontés, par exemple, à ces images de la guerre, des bombardements sur Gaza, et on va tous se faire un film très différent en fonction de nos subjectivités.
C'est exactement cela. Vous mettez vraiment le doigt sur un des aspects importants. Moi, j'aime bien parler de la double échelle de la perception. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque nous sommes face au monde que nous percevons, et nous-mêmes aussi, il y a à la fois le monde qui monte en nous, on pourrait dire, donc il va vraiment, on parle de bottom-up, donc il va depuis la rétine, si on prend la vision, mais ça s'applique aux autres modalités sensorielles, qui va imprimer les différentes régions de notre cerveau de manière un peu balistique, ça monte. Mais en même temps, comme vous l'avez dit, on va le percevoir différemment, non pas seulement parce que cette montée en nous va être différente un peu pour chacun d'entre nous, mais parce qu'également il y a une échelle descendante, une sorte de double échelle, c'est-à-dire que là, selon nos connaissances du monde, nos désirs, nos attentions, ce à quoi on fait attention précisément, ce que l'on veut voir du monde, on va influencer, non pas le monde, mais ce qui se passe dans les différentes régions cérébrales qui vont construire ces représentations du monde. Et il y avait un psychanalyste français qui s'appelait Racamier, qui dans une autre perspective avait cette phrase que je trouve magnifique de dire « la perception est une hallucination réussie ». Et c'est vraiment ça. Alors, selon la condition, quand vous dormez la nuit, vous êtes en plein rêve, vous êtes en plein échelle descendante. Lorsque vous êtes face à une alarme qui gagne votre conscience, c'est vraiment de la montée pure, on pourrait dire. Mais entre les deux extrêmes, donc dans la vie de tous les jours, en permanence, ce que nous percevons, c'est la résultante de cette double construction qui fait, comme vous le disiez parfaitement, que ça va être à chaque fois des touches un peu différentes. Alors, le savoir, ça ne change pas notre condition, c'est ça notre condition humaine, mais ça vous permet de faire un pas de côté. Et donc de pouvoir avoir un peu de jeu, de JEU par rapport à ce que vous pensez, de prendre de la distance sur vos propres pensées. Vous parlez des images de la guerre en général, elles sont très importantes parce qu'elles vont mobiliser l'empathie. Et par exemple, notre fonction d'empathie, on en a deux. Il y en a une qui monte de manière un peu automatique, mais qui va être très sensible aussi à nos affiliations. On va avoir du coup plus d'empathie pour les gens qui ont à peu près le même âge, qui ont le même genre, qui ont les mêmes ethnies, les mêmes origines, etc. Alors qu'on a un deuxième mécanisme qui est lui plus descendant, qui est plus conscient, qui demande plus de temps pour se mettre en œuvre, mais qui peut être décentré de nous. C'est-à-dire qu'on peut exercer une empathie qui va être détachée, donc on pourrait dire d'une certaine manière plus altruiste. Alors les deux sont utiles, parce que la première, c'est ce qui fait que quand vous marchez dans la rue, s'il y a quelqu'un qui est allongé, qui est dans la misère, ben vous ne pourrez pas échapper à ça. Et ça, c'est très bien. Mais voilà, comme vous le disiez, on a ces deux résonances et face à l'actualité,
c'est un... prendre conscience de cette subjectivité change quoi ?
Alors, justement, c'est ce que j'appelle avoir adopté la bonne distance avec notre pensée. C'est-à-dire que les deux écueils, je pense, quand on considère nos idées subjectives, c'est une de se dire, ben, comme ma vision du monde, c'est pas vraiment le monde, mais c'est ma construction, un peu à la Magritte, on est à Bruxelles, ceci n'est pas une pipe, c'est un dessin d'une pipe. Eh bien, du coup, en fin de compte, j'ai pas tellement de responsabilité, puisque ce que je vois du monde, c'est pas le monde, c'est une construction en moi. On pourrait appeler la piste du relativisme intégral.
Et vous, ce que vous dites, c'est que nos subjectivités, elles font partie du monde, que c'est le monde.
Exactement. Et ça, c'est pour moi le résultat central. Donc, le premier écueil, c'était ça. Le deuxième, c'est de dire, je vais prendre pour argent comptant ce que je pense. Donc, ce que je pense, c'est le monde.
C'est le monde, c'est la vérité.
Et ce que vous disiez, entre ces deux écueils, je pense que c'est cette position un peu médiane qui demande de l'effort, de se dire voilà, je prends au sérieux ce que je pense, c'est ma subjectivité, mais c'est pas parce que je la pense que c'est comme ça que c'est, et j'en suis d'autant plus responsable que, comme vous le dites parfaitement, on a souvent l'impression, tendance à se dire ma pensée, elle est en dehors du monde, mais en fait nos pensées, elles font partie du monde. C'est-à-dire que c'est au nom de ces pensées, même minuscules pour chacun d'entre nous, on a un rôle minuscule, mais ces pensées, elles vont agir sur le monde en fonction de nos croyances, nos désirs, etc. Donc, effectivement, c'est ça le pari, c'est de prendre au sérieux qui on est, de ne pas effacer la subjectivité, mais d'essayer de garder en nous une tension entre la richesse subjective et quelque chose qui la déborde, quelque chose qui est extérieur à ça, et d'être dans cette lutte constante, en fait.
Ici, Lionel Lacache, tous les soirs avec Julie, on tente de raconter le monde. Monde de plus en plus complexe, dit-on. Question, est-ce que nos cerveaux sont capables d'embrasser cette complexité ? Vous répondez oui, mais pour comprendre la complexité, on passe par une forme de simplification.
Oui, vous avez raison. Alors, je prends l'image de Rocky Balboa. C'est-à-dire qu'en fait, au début, le combat ne semble pas gagné d'avance. Parce que nos capacités pour penser le monde, donc, et là, c'est ça, on se rapproche de mes travaux de recherche depuis presque 30 ans sur la conscience, en fait. Notre traitement conscience qui va nous permettre de prendre conscience du monde, c'est à la fois très riche pour nous, c'est vraiment notre jeu JE, pour le coup. Mais je le raconte dans ce livre, c'est très limité. On ne prend conscience que d'un ensemble très très limité d'informations. On ne peut en manipuler que très peu, de manière, si je vous demande par exemple 11-3, ça va nous prendre à peu près une seconde pour répondre. Alors que si vous voulez un calcul, un algorithme de votre rétine vers la région visuelle, c'est des calculs beaucoup plus complexes et qui se font de manière beaucoup plus fulgurante. Donc on est avec un temps de traitement mental conscient qui est lent, qui demande un effort mental. On manipule peu de choses. Et donc, au début, on peut se dire, est-ce qu'on est capable de penser ? Et ce que j'essaie de proposer, et je ne suis pas le premier à le dire, c'est qu'on peut adopter une méthode. Parce qu'en fait, un des atouts de la conscience, c'est quand vous prenez conscience d'une information, c'est la propriété clé. Non seulement vous pouvez vous la rapporter à vous-même, à la première personne, je vous vois, etc., mais vous pouvez la mettre en relation avec toutes les autres facultés mentales que vous avez. On parle de circulation, vraiment, de disponibilité cognitive. Et on peut utiliser des méthodes. Descartes, à l'époque, avait proposé sa méthode, il y en a d'autres. Mais de commencer à penser le monde de la manière la plus simple possible et rajouter la complexité quand elle est besoin, quand vous en avez besoin, quand vous débordez votre modèle, et en ayant une sorte d'asymptote vers l'état du monde. Voilà. Donc c'est...
Pas à pas.
Pas à pas, avec encore cette lucidité et ce pas de côté pour vous dire je n'oublie jamais que ce que moi je pense du monde, c'est très précieux parce que c'est ce que je pense du monde et c'est ça que je suis en fait, c'est cette
mais
pensée
ça n'est que
monde.
Moi.
Mais ça n'est que moi, voilà, ça n'est que moi et ça n'est pas l'objet que je vois, ce n'est pas l'objet, donc de garder, moi j'aime bien l'idée de garder en tension des choses un peu opposées, donc notamment le feu de la subjectivité et la glace de l'objectivité, c'est-à-dire de garder les deux, de se dire voilà, l'enjeu c'est de continuer à penser le monde en sachant que vous ne pourrez jamais le penser de manière intégrale, mais que vous devez non seulement essayer de le faire, et que ce que vous allez faire, ça va aussi engager votre responsabilité d'individu, de citoyen, d'humain.
Il faut que nous parlions aussi quelques instants avec vous d'intelligence artificielle et de ChatGPT. Vous en parlez dans votre livre. Vous n'êtes pas vraiment inquiet, pas vraiment alarmiste, parce que pour vous, la bonne nouvelle, c'est que dans le fond, ChatGPT n'invente rien de neuf.
Oui, alors je fais pas quand même disons la personne
vous n'applaudissez pas.
Un peu arrogante, mais évidemment comme tout le monde découvrir ChatGPT, découvrir ses performances d'algorithmes génératifs, c'est fascinant. Il faut pas se leurrer, et de jouer avec, de voir ce qui se passe. Mais le point sur lequel j'insistais, alors je faisais un pas de côté là aussi en disant que c'est une technologie tragique, mais je voyais pas quelque chose de péjoratif. Mais ce que je voyais dans le tragique, c'est que je voulais rapporter évidemment la tragédie grecque. C'est quoi la tragédie grecque? C'est vous avez des personnages. Mais leur destin est écrit d'avance, et quelle que soit la façon de laquelle ils vont essayer de se démener dans la scène de leurs interactions, tout est écrit à l'avance, c'est ça. Ils ne peuvent pas échapper à leur destin. Et je trouvais ça intéressant parce que un des principes clés des algorithmes d'intelligence artificielle type réseau convolutif profond, génératif, type ChatGPT, je ne suis pas expert dans ces domaines, mais on les utilise et on travaille avec des collègues, c'est évidemment que vous allez entraîner un algorithme extrêmement sophistiqué avec des milliards de paramètres qui vont être pondérés, comme un peu les pondérations synaptiques du cerveau, pour arriver à travers un corpus de texte abracadabrantesque que vous alimentez, vous entraînez l'algorithme avec une chose, sachant cette suite de mots, tu dois essayer de prédire le mieux possible le mot d'après. Mmh. Et le mot d'après, vous le prédisez sur la base de tout ce qu'on vous a donné. Donc, en gros, je veux dire, c'est d'essayer de manière la plus parfaite possible à produire le mot d'après à la lumière de tout ce qui a été prédit, déjà dit.
Si déjà dit.
Voilà, donc c'est en ça que je trouve que c'est un peu tragique. Ça ne veut pas dire que c'est péjoratif, mais ça illustre un des mécanismes, en fait.
Mmh. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle va nous faire un peu régresser, cette intelligence artificielle, en prenant à son compte, en fait, toute une série de tâches
20 secondes.
Alors, c'est très dur. Ça tombe bien parce que je n'ai pas la réponse. Mais souvent, comme dans les grandes questions, je pense que là, c'est ça qui est intéressant, et d'en parler tous ensemble, c'est qu'on est face à une sorte de Y. Il y a des décisions qu'on peut prendre qui sont très importantes, notamment sauver du temps intérieur, pouvoir utiliser ça comme outil et déployer des capacités qui sont, qu'on sait pour l'instant, que nous sommes les seuls à savoir exercer, les enrichir. Mais tout est possible.
Merci Lionel Nakache. Sujet es-tu là ? C'est le titre de votre dernier essai. C'est aux éditions Odile Jacob. Bonne conférence ce soir à Volubilis.
Merci
ça
beaucoup.
Ça commence à partir de 20h. C'est à Bruxelles. Les infos de 19h arrivent dans quelques instants sur la première. Et puis ensuite, vous avez rendez-vous avec Rudy Lyonnais et Hugues Daillé pour la semaine des 5h. À demain. Bonne soirée.
À
Julie.
Demain. Très belle soirée.
Ego. Je déteste le changement. Papy vient sur Toc Toc. Jamais. Scanner le QR code. Et quoi encore? Et là, un changement de cuisine complet. J'adore. Avec le lave-vaisselle à ma hauteur. Fini de me baisser.
Avec Ego, tout le monde aime le changement. La marque belge du design accessible.
Ego, ça change la vie.
Destiny, la plateforme complète pour la téléphonie d'entreprise avec des intégrations intelligentes comme le CRM et Teams. Découvrez tout sur destiny.be.
Génial!
Osez voir grand pour votre business.
Yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka.
Croquer Apple.
Yaka.
Niquer Nike.
Yaka.
Doubler Tesla.
Yaka.
Faire déchanter Spotify.
Yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka.
Rendez-vous sur l'écho.be/yaka. L'écho, prenez de l'avance.
Le prix Première, l'émotion des premières fois.
Lauréat 2025, Pauline Valade pour son roman Bruno et Jean. En 1750, à Paris, ils périssent étranglés et brûlés, tous deux condamnés pour homosexualité. Pauline Valade réinvente leur vie pour qu'elle ne reste pas vaine et nous éclaire. Bruno et Jean, publié aux éditions Actes Sud, prix Première 2025.
La Première présente le concert de gala de la chapelle musicale Reine-Élisabeth le 2 avril à Beaux-Arts. Le baryton Stéphane Degout, l'orchestre Le Balcon et des étoiles montantes du chants feront pétiller l'humour et la poésie des histoires naturelles de Maurice Ravel. Infos et réservations beauxarts.be avec le soutien de Belfius et de la Loterie Nationale.
En ce moment chez Citroën, pour la gamme utilitaire électrique, c'est l'opération l'essayer c'est...
Je le prends !
C'est l'opération l'essayer c'est l'adopter. Sur nos utilitaires électriques Citroën, disponibles immédiatement à partir de 189 euros par mois en renting financier.
Un Iberlingo pour moi.
Deux e-jumpy pour moi.
Citroën. Offre soumise à condition pour les professionnels. Info sur citroën.be.
Il est 19h. Bonsoir, Alice Devillet avec vous pour ce journal. Il y a des failles dans la sécurité aux aéroports de Zaventem et de Charleroi. Des contrôles de sûreté ont été organisés en février. Le but était de vérifier si les agents étaient capables de détecter des bombes factices cachées dans des bagages en soute. Et les résultats interpellent. À Charleroi, par exemple, seul un explosif sur deux a été détecté. Cécile Neven, ministre wallonne des aéroports.
La déficience est qualifiée de sérieuse. Ça signifie qu'il va falloir remédier à la situation, puisque évidemment la priorité, c'est la sécurité des passagers, c'est la priorité absolue. Et donc dès que j'ai eu connaissance des résultats de cet audit, de ces tests, j'ai immédiatement sollicité les services de l'aéroport pour qu'ils puissent remédier sans délai à la situation. J'ai eu réponse des services de l'aéroport sur le fait que ces mesures correctrices sont bien en œuvre depuis le 3 mars et j'ai reçu tous les apaisements quant à toutes les sollicitations que j'avais faites.
Des propos recueillis par Rudy Hermans. Comment l'Europe peut-elle se défendre face à la menace russe et sans la protection éventuelle des États-Unis ? À cette question brûlante, la Commission européenne vient de répondre sous la forme d'un livre blanc. Il s'agit d'un document stratégique qui identifie les menaces, les besoins militaires et des propositions pour financer des achats massifs d'équipements. Ce livre blanc est maintenant dans les mains des États membres. Le commissaire de la Défense, Andrius Kubilius, les appelle à passer rapidement à l'action.
Poutine ne sera pas découragé si on se contente de lui lire le livre blanc. Il ne sera dissuadé que si nous mettons en œuvre ce livre et que nous l'utilisons pour construire des drones, des chars et des pièces d'artillerie pour notre défense. Notre ambition est de dissuader Poutine en lui montrant clairement que nous ne sommes pas seulement forts dans notre économie, mais aussi que nous sommes plus forts grâce à notre volonté politique démocratique et à nos capacités de défense. La défense collective ne peut être efficace que si tous les États membres investissent dans le développement approprié de leurs capacités de défense nationale. Les 450 millions de citoyens de l'Union européenne ne devraient pas avoir à dépendre des 340 millions d'Américains pour se défendre contre 140 millions de Russes qui ne parviennent pas à vaincre 38 millions d'Ukrainiens. Nous pouvons vraiment faire mieux. Il est temps pour nous d'assumer la responsabilité de la défense de l'Europe.
Des propos recueillis par Sandro Calderon. Chez nous, on tente aussi d'avancer sur ce sujet. Le gouvernement de Weaver estime qu'il faut booster nos investissements vu le contexte international. Désormais, au sein de l'Arizona, tout le monde est d'accord sur ce point. Il faut augmenter nos dépenses à 2% du PIB d'ici le mois de juin et le prochain sommet de l'OTAN. Pour y arriver, l'Union européenne a promis aux États de sortir temporairement leurs dépenses militaires des règles budgétaires habituelles. Mais Bart de Wever n'y voit pas un chèque en blanc. Pour lui, il faudra bien compenser ses dépenses militaires. Son téléphone n'arrête pas de sonner. Après Vladimir Poutine hier, Donald Trump s'est entretenu avec Volodymyr Zelensky aujourd'hui. Le président américain a parlé d'un très bon appel. Il estime que les discussions sont sur la bonne voie. Donald Trump a encore expliqué qu'une bonne partie de cette conversation avait pour but d'aligner les demandes et les besoins de la Russie et de l'Ukraine. Plus tôt dans la journée, le président ukrainien avait déclaré qu'il allait demander que les États-Unis soient la principale entité de contrôle du cessez-le-feu partiel décidé mardi. Volodymyr Zelensky a assuré que Kiev respectera ce cessez-le-feu partiel sur les infrastructures énergétiques, si Moscou fait de même. Mais en tout cas, sur le terrain, les combats se poursuivent dans les deux camps. 436 morts en 48 heures, selon un bilan, 970 morts selon un autre bilan. Les pertes humaines sont, dans les deux cas, énormes dans la bande de Gaza. Après la reprise des frappes israéliennes et une nouvelle offensive particulièrement meurtrière, l'armée israélienne a annoncé avoir lancé une nouvelle opération terrestre dans le centre et le sud de la bande de Gaza, après une deuxième journée de frappes aériennes sur l'enclave. Israël et le Hamas s'accusent mutuellement d'avoir violé l'accord de cessez-le-feu signé le 19 janvier dernier, qui offrait un répit aux 2,3 millions d'habitants de Gaza après 17 mois de guerre qui ont réduit l'enclave à l'état de ruine. Et puis on termine par un petit mot de tennis où on salue la victoire de David Goffin au premier tour du Masters 1000 de Miami. Notre compatriote, actuellement 55e joueur mondial, a battu le 77e Alexander Vukic. Une victoire en 3-7, 6-2, 4-6, 2-6. C'est un gros morceau qui attend le Belge au prochain tour, le 3e joueur mondial, Carlos Alcaraz. C'est tout pour ces informations. Bon début de soirée.